Salut, c'est Étienne Daou. Vous êtes sur Gameblog.
Julo,
ouais.
C'est grotesque quand tu fais
oh
ça.
Oh mon dieu,
quoi.
Mais taisez-vous tous.
Mais je l'imite ouais. Très bien.
Non,
je vous tue.
Tu l'imites super mal. Gameblogueuse, Gameblogueur,
bienvenue
dans le nouveau podcast de la rédaction que Julo a piraté avec sa voix d'Étienne Daou, sa fausse voix d'Étienne Daou. Il essaye à chaque fois de le faire. Non, mais ça marche pas, Julo. T'as pas la voix assez grave pour faire Étienne Daou.
C'est
voilà, alors si vous êtes en premium, vous voyez Julo qui fait n'importe quoi. C'est assez désastreux aujourd'hui. Encore une semaine d'actualité chargée que nous allons traiter tous ensemble avec Julo, donc, et non pas Étienne Daou, contrairement à ce que vous auriez pu croire. Avec Traz également.
Salut, merci beaucoup.
Et avec Johnny Wan.
Salut.
Alors Johnny, en fait c'est pas Johnny. Hein. Si vous êtes premium, vous avez remarqué que c'est Romain, mais il imite très bien le bonjour de Johnny Wan. Tu peux le refaire s'il te plaît?
Salut.
Voilà, vous avez cru que c'était Johnny Wan, mais ce n'est pas lui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Johnny Wan,
on va faire un quart d'heure dessus.
Johnny Wan, quand il débarque à la rédaction, c'est non, irrémédiablement ce salut qu'il nous fait à chaque fois qu'il arrive dans la pièce. Ça, c'est la même chose à chaque fois. Donc c'est pour ça que ça nous amuse. C'est une private joke qu'on partage avec
voilà.
vous.
Voilà, et qu'on aime Johnny Wan quand il fait son
salut.
Des fois, on a envie de tuer quand même, mais c'est pas grave.
Alors cette semaine, nous allons aborder
trois thèmes. Il y a Traz qui s'est imité François Mitterrand, et pareil.
Non, c'est pas Traz qui sait le faire, c'est moi. Appelez-moi Dieu. Donc, trois thèmes différents cette semaine, et non pas Mitterrand. À commencer par toutes ces annonces cette semaine de licences qu'on sent un petit peu dormantes, on ne sait pas trop si elles vont disparaître ou pas. Il y a le problème de Yo Interactive qui est revendu par Square Enix, tout bêtement. Mass Effect Andromeda, visiblement, des tonnes d'indices pointent vers une grosse pause de la licence après Mass Effect Andromeda. Je sais pas, moi, je donne aucune idée. Je sais, des fois tu parles dans ma main, d'un coup t'es
un tous
des fois je prends les intonations un peu bizarres. Bon,
tu sais faire l'accent belge parce que par contre j'ai beaucoup de respect pour
toi,
les gens qui savent le
faire. Tu sais parler en plus sans le visage.
Pardon.
Donc le deuxième thème.
Je pense que ça va être un podcast.
Avec la fatigue qu'on a accumulée, ça va être assez folklore. Deuxième thème, ce sera prêt. Le test est tombé. Le test est tombé.
Pour les imitations nulles, il y a tout le monde, et puis pour les blagues nulles, il y a Traz.
Le test est tombé il y a quelques jours et on peut enfin vous en parler en long, en large, en travers. Est-ce que c'est vraiment la grosse claque comme je l'ai écrit dans le test? Je vous dis ça tout à l'heure.
Ah, parce que ça se trouve, t'as fait une blague, c'est pas du tout.
Ça se trouve, c'est nul à chier.
Ça n'a rien à voir avec ce que t'as dit.
Ouais. Et thème numéro 3, on revient sur NBA Playgrounds, le jeu qui était le plus attendu par Romain cette semaine.
Romain.
Qui est donc un NBA Jam like ou pas. On en discutera tout à l'heure pour savoir si c'est vraiment aussi accessible et aussi fun que ce vieux jeu d'arcade sur lequel nous vous avions régalé il y a quelques semaines en super rétro avec un Traz au top de sa mauvaise foi.
t'as raté ça hier pendant le live d'hier, il nous a refait un truc comme ça. À un moment,
c'est
on était trois dans le même coin.
J'ai fait qu'une fois.
Il est où Traz?
Il a appuyé sur le bouton passe et il y a le ballon qui part tout à fait.
Je crois que j'étais dans la pièce à ce moment-là, je ne sais plus. Donc, fin de podcast, évidemment, nous reparlerons des autres tests qui sont parus et de l'actu en vrac, mais avant ça.
Générique.
Non. Le clap.
Non, je voulais laisser un blanc en fait. D'accord. C'est juste ça. Non, on va passer au win et au fail évidemment de la semaine. Le win de la semaine.
Quoi, win déjà, je m'en souviens plus.
C'est toi, Traz.
Ah bon?
Bah ouais, justement. Tu es mon winner. Voilà. T'as une bonne tête de vainqueur.
C'est vrai.
Ouais. Ah oui, pas de doute. Ouais.
Bah écoute, ok.
T'as une bonne tête de vainqueur.
Alors, micro là ou pas?
C'est quoi ce win de la semaine?
Je sais pas, je m'en souviens plus en fait.
C'est vrai? T'as pas la feuille devant les yeux?
C'est le Wipeout version Super Collector PS4, machin bidule truc, bidule machin soit.
Ah, c'est vachement bien décrit en tout cas.
Exact. Super bien. Bon, en fait, c'est le nouveau Wipeout Omega Collection, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Qui sera en version. Voilà, vous pouvez le voir à l'écran si vous avez l'image devant vos yeux ébahis.
Ouais.
En version donc vieille comment on appelle ça, vieille boîte,
vieux packaging,
PlayStation 1, voilà, ouais. Exactement. Évidemment, c'est le jeu PS4 forcément, mais par contre, c'est le même logo que sur la version PS4 normale, hein.
Ça a l'air d'être juste un
fourreau. Pas le même logo, pardon,
mais
le même visuel.
C'est un fourreau, mais ce qui est marrant, si vous regardez, c'est ça que représente assez bien l'état de nos boîtes PS1 à l'époque. Vous avez les petites rayures sur le bord noir.
Ouais, c'est un peu patiné, ouais.
La jaquette
non,
est
mais
un
tu
peu
vois les rayures sur le plastique.
Ouais, la jaquette est un peu froissée si vous regardez en transparence.
Mais tu sais, quand on voyait le visuel sur la news que t'as écrite, je me suis rendu compte à quel point elles étaient énormes, les boîtes en fait à l'époque. Par rapport
les boîtes étaient super épaisses et super larges.
Je pensais que c'était un défaut, mais en fait, non, elles étaient bien comme ça à l'époque.
Non, c'est la moitié la taille. Hein. La taille
elles
en hauteur.
Format...
C'était plus petit, non, je parle de l'épaisseur, pardon.
C'était format DVD.
L'épaisseur était vraiment énorme.
C'était pas format CD. Aux États-Unis, ils avaient des boîtiers format CD. Chez nous, on avait un format spécial qui était plus
épais. Mais je veux dire, format entourant un CD, je veux dire pour la longueur, la largeur et la hauteur. Pas pour l'épaisseur. L'épaisseur, c'était un peu plus épais.
Qu'est-ce que c'était fragile, punaise.
Ouais, c'est c'est clair, les je me rappelle des pignons là quand tu les ouvrais, ouais. Une fois, clac, ah bah, général, c'était fini, et on n'en parlait plus.
Ouais, des fois, t'achetais un
le plastique à l'intérieur pour retenir le CD qui lâchait quasiment à chaque fois. Enfin, c'était une horreur, mais en même temps, voilà, moi je l'ai préco.
Donc à peu près 30 livres sur 3 sites anglais. Attends, j'ai noté les noms.
C'est une trentaine d'euros.
C'est ça le problème, c'est que c'est pas en France.
Games et Base.
Et il faut préciser que c'est un bonus de préco.
Ouais, de
parce que
exactement.
Si vous l'achetez après la sortie, vous pourrez pas bénéficier de ce truc-là. Moi, j'ai essayé de demander à PlayStation France si on allait avoir le droit à la même chose chez les revendeurs français. Déjà, d'une, il était pas au courant. Et deux, visiblement, c'est pas prévu en France. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a dit c'est pas officiel. Je vois pas comment ça peut ne pas être officiel. Vu que le truc a été retweeté par le compte PlayStation UK, mais et il y a trois revendeurs. Si c'était un seul revendeur, d'accord, mais là c'est trois revendeurs différents.
Mais ça fait une opération en Angleterre.
Ouais, enfin, c'est, je pense que c'est, une c'est officiel qu'au Royaume-Uni.
PlayStation UK sont capables de faire des trucs assez incroyables. Vous vous rappelez pour Tomb Raider, ils avaient fait aussi un boîtier PS1 là pour les. Je crois que c'est pour les 20 ans de Tomb Raider.
Ah, c'était juste pour le réseau social.
Avec le Rise of the Tomb Raider, bah ouais, mais bon, en attendant, des fois ils pensent à des trucs. Alors
en attendant, nous on se fait avoir.
Nous aussi on veut des choses en France.
En tout cas, Activision avec Crash Bandicoot Insane Trilogy, ils devraient carrément faire la même chose.
Exactement.
Parce que dans l'esprit des gens, Crash Bandicoot, c'est vachement ancré PS1 et
ça pourrait faire plaisir.
Ouais, et puis PlayStation devrait faire une PS1 mini et casserait le game complètement.
Ah, je pense aussi, ouais.
Et une portable mini aussi.
Par contre, c'est un visuel fait par ordinateur, quoi, et je pense qu'on va être vachement déçus. Enfin, tu nous diras plus quand tu vas le recevoir, parce que ça a l'air d'être simplement un fourreau qui va être probablement en carton, quoi.
Mais ça va être un steelbook, je crois.
Je crois pas.
Il y a un steelbook.
On voit que c'est un fourreau. Il y a la boîte qui dépasse bleue.
Non, c'est clairement un fourreau. Faut voir la matière du fourreau.
De toute façon, je le sortirai jamais.
Si c'est du carton, ça rendra certainement pas aussi bien que ça. Mais si c'est un truc un peu plus dur, pourquoi
pas. Je prends les paris. Je vous dis que ce sera du carton.
Oh là là,
tu crois qu'ils ont pas fait un boîtier cristal comme à l'époque?
Bah non.
Moi j'aimerais bien.
On verra. En attendant, il y a aussi un fail cette semaine. Et Romain, ce fail, il est extraordinaire.
C'est Johnny Wall.
Alors, il est super curieux et je m'attendais pas à avoir à parler de ça en 2017.
Oh, ouais.
En Chine, Microsoft a commercialisé un nouveau pack Xbox One S. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que ce pack Xbox One S est livré avec deux jeux. Ces deux jeux sont des jeux Kinect.
Ouais.
Mais.
Ouais, d'accord.
Mais il n'y a pas de Kinect dans le pack.
Mais pourquoi? Parce que tout le monde l'a acheté, c'est tout. C'est pour ça qu'il dit ça.
Tout le monde l'a acheté en Chine.
Tout le monde l'a acheté en Chine, mais n'importe quoi.
C'est sûr.
Et donc, ce qui veut dire que si les gens.
C'est complètement débile.
Si les gens veulent profiter à fond de ce pack, ils doivent donc acheter le pack plus un Kinect. Plus un adaptateur. Parce que la Xbox One S n'est pas compatible d'entrée de jeu avec le Kinect. Il faut un petit adaptateur
Kinect,
en plus.
Parce qu'on est sûr que
le capteur Kinect.
Est-ce qu'on est
la
sûr que,
caméra
est-ce
Kinect,
est-ce que dans le pack en question, il n'y a pas un bon genre allez retirer votre Kinect quelque
d'après,
part à un endroit louche.
D'après des gens qui,
de
parlent qui parlent chinois, et ce sont eux qui ont relayé cette information à la base.
Kev Adams, c'est ça? Non, je ne sais plus.
Michel Leb,
pardon.
Il n'y a pas de.
Non, pas là, s'il te plaît.
Il n'y a pas de Kinect.
Pas de problème, c'est pas nous qui a tué ton frère. La tour est par la Saint-Fernale. Si vous cherchez une référence, c'est juste ça.
Il n'y a pas de Kinect dans ce pack.
Il n'y aura pas d'erreur 404.
Bon. Et j'arrive toujours pas à comprendre la logique. Alors peut-être
à comprendre le chinois.
Peut-être qu'en se torturant un peu l'esprit, on peut se dire qu'ils ne voulaient pas imposer l'achat du Kinect aux gens. Donc si vous, on vous met des jeux avec. Si vous voulez, si vous voulez le capteur, vous l'achetez à part.
Mais si vous l'achetez pas, vous pourrez pas jouer aux jeux qui sont vendus avec.
Bah voilà, ça, mais peut-être que ces jeux-là n'intéressent pas les gens, ils les mettent juste comme ça. Là, pour le coup, j'arrive vraiment pas à avoir d'explication logique
fait,
à ce truc-là.
C'est
n'importe quoi. En fait, en haut, il y a marqué bande d'abrutis d'occidentaux, c'était une blague.
Poisson d'avril.
En tout cas, comme dirait Eric Judor, c'est un délite.
Oh là là, moi je me cache, j'en ai marre.
Hein? Mais non, mais pas du tout. On va passer au premier thème, messieurs. Le premier thème, c'est un peu SOS licence en danger, parce que cette semaine, il y a eu des nouvelles un petit peu alarmantes du côté notamment de chez Mass Effect, de BioWare Montréal, pour être exact. Pas vrai, Julo?
Eh bien oui, effectivement, Mass Effect montre des signes d'une mise en hibernation annoncée. Effectivement, parce que toutes les équipes dédiées au développement des jeux Mass Effect
ont disparu.
Bah,
ils sont envolés du jour au lendemain.
Et bah, presque, c'est presque ça. En fait, ils sont tous partis. Ils ont été en fait réaffectés à un autre studio d'Electronic Arts, qui est le studio EA Motive.
Monsieur le Jed Raymond.
Voilà, de Jed Raymond, qui travaille actuellement sur un projet
Star Wars de ouf, je crois.
Codename Dylan.
Voilà.
Oui, oui.
Donc voilà, il n'y a plus personne
qui
travaille.
Un jeu sur Beverly Hills, donc.
Ouais, c'est voilà, ça, certainement. Et plus personne ne travaille sur un quelconque projet Mass Effect. Alors on sait qu'il a été plutôt mal accueilli par la presse et même par les fans. Hein,
L'Andromeda,
ouais,
il a eu du mal. Ouais.
On parle bah, pourtant, il se donne du mal. Hein, il balance des patchs toutes les semaines pour essayer de corriger.
600 gigas. Ouais.
Ouais, oui, mais,
le mal est fait.
Le mal est fait, c'est souvent comme ça. Tu payes les.
C'est là que je me dis qu'il y a quand même un problème.
Il n'y a pas de problème.
Par rapport à tout le monde, c'est que tu as des jeux comme The Witcher 3, pour ne citer que lui, qui était visiblement blindé de trucs aussi, de problèmes, qui s'est corrigé pendant un an. On glorifie CD Projekt parce qu'ils font le maximum. Il y a plein de studios d'ailleurs qui font toujours le maximum.
Il y avait une petite différence entre les qualités de The Witcher 3.
Non, mais c'est évident.
À la base, je pense que.
Mais je veux dire que c'est un peu deux poids, deux mesures, quoi.
Mais ceci dit, t'as raison, il y a eu plein de patchs aussi.
Ouais, cela dit,
il avait une bonne base.
De mémoire, il n'y a pas eu de choses aussi grotesques que ce qu'on a pu voir sur Mass Effect.
Ce qu'on a
avec
pu voir.
Avec des têtes improbables.
Romain, de ce qu'on a pu voir.
Romain, tu me laisses
trois petits points. Sur Twitter, sur Internet, etc.
Je suis d'accord.
Parce que si tu demandes à Johnny One qui a testé le jeu, comme tu demandes à moi qui avait à l'époque testé Assassin's Creed à Paris, comment il s'appelait déjà
Unity.
Unity.
Victor Hugo.
C'est très loin de représenter l'expérience que toi tu as.
Ah oui, je suis totalement d'accord.
Tu peux
d'accord.
avoir un de ces bugs-là, mais t'as pas tous les bugs qu'il y a dans les compiles de bugs, etc. Et Johnny One n'a pas eu ces animations absolument ridicules qu'on a
Mais là, c'est un effet de, voilà. c'est un effet de cool de lynchage.
Effet loop.
Un effet de lynchage de groupe. Maintenant, on s'acharne et donc après,
exactement.
Ça a un impact.
C'est là que je te rejoindrai plus sur le côté deux poids deux mesures, parce qu'on se souvient effectivement d'Assassin's Creed Unity qui s'était fait mais défoncer la gueule.
Oh là oui.
Mass Effect, c'est un peu pareil, mais cela dit, Mass Effect, il a déçu pour bien d'autres raisons les fans
bien
de
sûr.
La série et qui n'ont pas retrouvé,
non, mais c'est
qui n'ont pas trouvé là.
C'est
même
la mise en exergue
dans le cœur du jeu,
des problèmes techniques, genre les yeux qui ont été refaits dans la
foulée.
Mais
pour les problèmes techniques qu'il a pas été aimé par les fans.
Oui.
C'est au-delà de ça.
C'est plus pour l'histoire.
Voilà, exactement.
La globalité. Donc Mass Effect, voilà. Petit
Ils sont
souci.
Un peu passés à côté quand même.
Peut-être.
A priori.
Peut-être que EA les a obligés à rusher aussi un jeu.
C'est
possible. Hein. Donc,
dans tous les cas,
d'ailleurs, s'est exprimé en disant qu'ils étaient déçus.
Mais mine de rien, c'est aussi les problèmes techniques qui ont été mis vachement en avant sur Twitter, Facebook, etc., sur les commentaires des sites. C'est assez symptomatique d'une situation dans laquelle on est en ce moment. Je trouve qu'il y a une sorte d'acharnement plus facile sur le moindre truc. Bon, après. Moi, je suis d'avis quand il y a un gros défaut, je suis d'avis. Enfin, il faut en parler, il faut le dire, il faut le noter, etc. Il faut le reprocher à un jeu.
Non.
Mais là, maintenant, tu sais, il y a vraiment un phénomène de.
Ah, tu veux dire que
de masse,
c'est des
gens qui
c'est devenu un jeu en soi, quoi.
Et c'est un jeu punching ball, et il y a pas mal de jeux qui subissent ça en ce moment. Je sais pas ce qui a changé dans l'état d'esprit des joueurs sur les réseaux sociaux et trucs comme ça.
Dans l'humanité entière, bah écoute, c'est facile.
Mais c'est un phénomène assez récent, je trouve.
Les réseaux sociaux, c'est un espèce de gigantesque troquet où maintenant tout le monde peut dire n'importe quoi.
C'est le huitième pouvoir.
L'autre côté du truc, c'est qu'il y a quand même des trucs très drôles qui sont sortis.
Ah, ça crée des mèmes, c'est rigolo, on se marre bien.
Ouais. C'était pour parler de Mass Effect, mais s'il n'y a pas que Mass Effect qui a l'air en danger.
Bah
hein.
Écoute, qui est en danger, c'est l'agent 47, qui l'eût cru. Lui qui
est
si doué pour bien s'en sortir dans les situations les plus cocasses.
Ah oui, c'est vrai.
Et bien, voilà. Square Enix a donc dévoilé ses résultats annuels pour l'année fiscale qui se terminait le 31 mars dernier.
Qui sont très bons d'ailleurs.
Voilà, sauf qu'il y a une grosse perte sèche qui représente tout de même, je prends mes petites notes, 4,9 milliards de yens, ça fait un peu moins de 40 millions d'euros. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont décidé en fait de cesser toute exploitation, collaboration avec le studio IO Interactive, donc le studio danois responsable de Hitman depuis tant d'années. Voilà, ils veulent s'en débarrasser. Alors ils n'ont pas annoncé une fermeture de studio, c'est un peu la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, parce que c'est souvent le cas aussi quand un gros éditeur veut se séparer d'une de ses équipes, d'un de ses studios, en général il met la clé sur la porte, les gens s'en vont, etc. Là en fait IO Interactive est à vendre,
au plus offrant.
Voilà, donc apparemment
ils vont trouver preneur.
Square Enix a déjà annoncé qu'il avait des potentiels investisseurs qui étaient sur le rang. Des investisseurs, c'est le mot qu'ils ont utilisé
ils vont pas les lâcher alors, je comprends pas.
Pour des investisseurs externes qui souhaiteraient investir dans IO Interactive.
Des racheteurs potentiels.
En fait, eux, ils s'en lavent les mains et ils confient ça à d'autres entreprises potentiellement
intéressées. La question qui reste en suspens quand même, c'est est-ce qu'ils comptent vendre IO Interactive, l'équipe, le studio, avec ou sans la licence à ce moment-là. Est-ce qu'ils veulent garder l'agent 47, Hitman, la série, pour la développer eux-mêmes de leur côté avec d'autres studios, ou est-ce qu'ils veulent le vendre comme un package avec son studio fondateur, donc IO Interactive? C'est la question qui reste en suspens, et c'est celle qui va intéresser du coup les fans de cette série, voilà. Donc à surveiller dans les mois à venir. Dans tous les cas, IO Interactive a reçu énormément de tweets, évidemment, de soutien. Ils ont simplement répondu en disant voilà, on peut rien dire pour l'instant, mais on continue à bosser, et dès qu'il y a du neuf et dès qu'on peut parler, on vous parlera.
Et c'est voilà. Pas la première licence de Square Enix qui est en pause danger, où on sait pas trop dans quelle situation elle se trouve, parce qu'on sait par exemple que Sleeping Dogs, il y en aura plus. On sait que Deus Ex a été mis en pause parce que les studios en charge se sont mis sur les jeux Marvel, visiblement.
Et Tomb Raider aussi.
Et Shadow of the Tomb Raider, oui, absolument, qui lui ne sera pas présenté à l'E3, donc ça se trouve. Peut-être que Tomb Raider aussi est un peu dans la panade, mais on ne sait pas trop.
Je pense au moins quand même.
Ouais.
Lara Croft, c'est quelque chose, la licence Tomb Raider, en termes de popularité, de reconnaissance mondiale, c'est totalement incomparable avec Square Enix. En plus, Tomb Raider, il y a un nouveau film. Je pense que Lara Croft
est
safe.
Ouais,
puis il comptait pas non plus sur la licence Legacy of Kain pour revenir un jour. J'ai l'impression que côté occidental de Square Enix, on est en train de se dire on va peut-être plutôt se concentrer sur le japonais, non?
Ouais, et aussi
Sur Marvel.
Le truc, c'est que Square Enix en plus se détourne vers ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire les jeux en tant que service.
Ouais.
Ça va être leur nouvelle politique, hein, ils l'avouent dans leurs documents financiers. Et après, il y a le côté frileux vis-à-vis des jeux AAA, tu sais. Maintenant, ils veulent aller du côté des coups sûrs, en fait.
Qu'un triple A, ça coûte énormément d'argent. Donc, triple A, il faut que ça marche.
Ouais, et il faut rassurer les investisseurs. Et mine de rien, même si pendant longtemps, on essayait de nous faire croire que les tests de jeux vidéo avaient plus d'influence ou se conservaient plus à rien, en gros, mine de rien, ça a un impact considérable aussi bien sur les ventes et indirectement sur les résultats financiers des studios.
Ça a d'autant plus de poids depuis Internet et le fait qu'Internet soit chez tout le monde.
Metacritic,
ce genre de choses, enfin, c'est devenu hyper important. Moi, je me souviens qu'à l'époque, déjà à Joypad, on avait entendu cette histoire. On avait mis une mauvaise note à FIFA ou je sais plus quel jeu. Et Carrefour, l'enseigne Carrefour, avait immédiatement, suite à la note de JPEG,
avait annulé les commandes, réduit
de moitié ses commandes du jeu en question. Je sais plus quel
jeu. Vous aviez cette influence là, les mecs?
À l'époque, c'était la presse papier. C'est pour te dire, aujourd'hui, une mauvaise note sur les sites internet, c'est mille fois pire que ce qu'on pouvait représenter avant, nous.
Je vous imagine, dans les années 90, début des années 2000, c'est genre, vous aviez le pouce comme ça et c'est vous qui décidiez en le baissant comme ça. Du coup, les jeux se vendaient plus, quoi.
C'est mille fois pire aujourd'hui avec Metacritic et tout. Aujourd'hui, quand tu veux, enfin, je veux dire, n'importe quel Pékin moyen, même s'il s'intéresse pas d'une manière quotidienne aux jeux vidéo, avant d'acheter un truc, aujourd'hui, le premier réflexe de tout à chacun, c'est d'aller sur internet et de regarder les avis et tout ça.
Mais tu sais, même pour la vie de tous les jours des développeurs, les bonus de fin d'année ou de choses comme ça sont souvent calculés, métacritique.
Ouais.
Genre entre 4, si vous avez en dessous de 85 de métacritique,
c'est la carotte en fait.
Vous n'avez pas de bonus.
On se souvient de l'histoire de Fallout New Vegas qui justement n'avait pas atteint les 80%, il était resté bloqué, je crois, à 79 ou 78% sur métacritique, et du coup, ils n'avaient pas eu droit à leur bonus. Qui aurait dû leur être alloué, justement, alors que le jeu était très 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 bon, mais voilà, il suffisait juste d'avoir le mauvais ratio, c'était fini.
Même si y a des artistes dans le monde du jeu vidéo,
il faut
jamais oublier, et les gros éditeurs nous le rappellent fréquemment, que c'est une industrie. Et donc ils font pas ça pour la beauté du geste, et aussi soit un Deus Ex ou un Hitman ou quelque chose.
Et après, t'as des lignes éditoriales qui font que
si l'argent ne rentre pas suffisamment,
mais arrête tout.
Ils ont pas d'état d'âme, hein, c'est pas.
Ils font pas ça que pour l'amour de l'art.
Voilà, c'est ça.
Mais
c'est pas du mécénat.
Après, l'amour de l'art est plus ou moins imprégné dans les stratégies des éditeurs, quoi.
Oui, mais après il y a des boîtes qui peuvent le supporter. Par exemple, un Sony qui, même si l'entreprise dans sa globalité et pas forcément là où elle aimerait être, elle peut encore se permettre de financer un jeu prestige. Tu vois, un jeu comme Last Guardian par exemple, qui en termes de vente, c'est peanuts à l'échelle mondiale. Mais pour le rayonnement de la marque de PlayStation, la marque, ouais, au monde vis-à-vis du monde entier, et bah, de temps en temps, ils peuvent financer un jeu comme ça. Les éditeurs ou plus petits, bah, eux, ils voient pas du tout comme ça. Ils y vont cash. Et tu vois que Square Enix, par exemple, met l'accent sur les MMO, met l'accent sur les jeux mobiles aussi, des choses qui rapportent du cash rapidement. Et sur le long terme.
Et ça me fait penser aussi à un truc, là, l'histoire
avec un investissement moindre.
L'histoire des notes, etc. C'est là que tu peux aussi remettre en perspective par rapport à l'importance des notes, des reviews, etc. La nouvelle stratégie de Bethesda, hein, qui, comme vous le savez, ne fournit plus de version presse à temps pour qu'on puisse faire les tests à temps, voilà, pour qu'il y ait une note et un test en bonne et due forme au moment où vous allez acheter le jeu. Bethesda a désormais une nouvelle politique, c'est depuis Doom.
Ah, c'est ça.
Depuis Doom, voilà. Ouais, ouais. C'est de nous envoyer les jeux la veille de la sortie, même pas, enfin moins de 24 heures avant la sortie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe?
Alors, de sorte qu'on puisse pas le tester à temps pour la sortie.
Bah, je trouve que c'est ça que ça insinue, quoi, quelque part. Donc, par exemple, toi, t'as du rusher prêt. Et d'un autre côté, les développeurs de prêt te disent ouais, c'est pas un jeu qu'il faut rusher parce qu'il y a plein de trucs à faire à droite à gauche, faut prendre son temps, etc. Bah, ça va à l'inverse de ce que.
Ça dit, je l'ai pas rusher non plus.
Donc,
hein,
en fait, évidemment, ils cherchent à ne pas avoir de mauvaises notes si jamais ça devait être le cas. Et en plus, ils sortent quasiment que des bons jeux. C'est comme, ouais, c'est
ah,
comme
bah,
ça.
Dishonored, on l'avait eu quelques temps.
Dishonored.
Avant, on s'était procuré juste avant. Le test était sorti le jour de la sortie.
En fait, ça les dessert plus qu'autre chose.
C'était un super. Oui, parce que Doom.
Et puis, je pense que c'est trop. La stratégie pourrait servir à des développeurs qui sortent des jeux de qualité moyenne ou qui ont des risques sur l'aspect qualitatif de leur jeu. Mais Bethesda, ils se fourrent le doigt dans l'œil parce que bon, ils sortent quand même des jeux plus que corrects.
Ça les dessert parce que
le testeur va rusher le jeu. Pour pas se couler, évidemment.
N'exagérons rien, hein, sur le terme rusher. J'ai passé quand même.
Non, mais rusher, ça veut pas dire. Rusher, ça veut dire devoir
enquiller, en fait.
Le binge,
c'est pas le fait d'avoir passé peu de temps dessus, d'accord. C'est le fait d'avoir passé beaucoup de temps, mais sur une période très réduite.
Mais par contre, tu te devais de livrer le test assez rapidement, donc t'as peut-être pas pris ton temps d'aller voir.
J'étais pas obligé, en plus, j'ai même pas mis la pression.
Pour aller voir.
Non, t'as juste affiché la gueule.
J'étais peinard, moi.
Pour aller voir tous les à côté, etc. Imagine, par exemple, tu joues à Breath of the Wild, le dernier Zelda, dans le cadre d'un test que tu dois rusher. C'est insupportable. Tu vas faire aucune quête annexe, tu vas te dire non, je me concentre sur la quête principale, tu vas en faire une ou deux par-ci par-là et tu vas passer à côté de toute l'âme du jeu. J'étais peut-être pas comme ça d'emprès.
Parce que je dis, Zelda, il est très particulier. Donc...
Non, mais Zelda, par exemple, si on devait le rusher, ça serait
Zelda,
une tristesse absolue.
De le rusher.
Non, mais tu vois, comme prêt, c'est vrai que ça le dessert parce que c'est un jeu qui est très difficile. Et pour te faciliter la tâche, on va dire, c'est prendre ton temps, d'augmenter tes capacités, de trouver de meilleurs objets, etc., etc. Mais dans le cadre d'un test, d'un jeu qui arrive la veille du test et tu veux publier le plus vite possible, eh ben, t'as pas le temps de faire ton leveling comme tu l'aurais fait.
Exactement.
Si t'avais pu profiter du jeu en avance. Et donc après, ça peut te donner une impression faussée sur le jeu parce que tu vas dire merde, c'est injouable, c'est ultra difficile. Alors qu'en fait, non, c'est pas si difficile que ça si tu prends le temps d'y jouer convenablement.
Il y a Trace qui est mort de rire, j'aimerais bien savoir pourquoi.
J'ai fait peur à Poufy, mais c'est pas grave.
Ah bon, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai fait des bruits bizarres.
Ah, c'est cool, on les a pas entendus, nous.
Et donc, ça dessert effectivement Bethesda. C'est dommage.
Bon, là, on parle de Bethesda.
Et en plus, ça donne l'impression.
Ouais, c'est vrai!
Non, mais en plus, ça donne l'impression qu'ils ont des choses à cacher.
Oh non, alors mais là, c'est mauvaise langage, je suis pas d'accord avec toi.
Pas sur ces jeux-là, en tout cas. Que ce soit Dishonored 2 ou Prey, en tout cas, je suis pas d'accord.
Justement, s'ils n'ont pas de choses à cacher, pourquoi ils nous montrent pas les jeux en avant?
C'est ça que je trouve fou, et même pour Doom aussi, hein, je pense qu'ils n'avaient rien à cacher.
Alors après, c'est peut-être moi qui vois le mal partout, mais quand
ils veulent plus prendre de risques.
Quand tu fais ça, et c'est lié aux retombées financières, etc.,
oui,
mais
dû à une mauvaise note.
Quand tu fais ça, tu donnes l'impression que tu as peur des notes qui vont tomber, et que tu veux qu'au maximum limiter l'impact des notes sur les ventes du jeu. Alors qu'en fait, chez Bethesda, dans la plupart des cas, bah c'est pas l'effet que ça aurait, en fait.
Exactement, mais ça c'est dommage. C'est bon.
Bah c'est une nouvelle politique que les gens font.
On pourrait y passer des heures, hein, à discuter de cette histoire.
C'est intéressant. Je comme sujet,
ah oui, non, bien sûr. Mais d'ailleurs, on peut continuer à en discuter. Hein. Éditeurs nous envoient les versions un peu trop tard pour qu'on puisse avoir des tests à temps pour vous, les consommateurs, les joueurs qui avaient envie de savoir avant le jour J si
quoi, retour,
vous avez bien fait de précommander ou si vous allez pouvoir vous lancer dans le jeu Day One. Bon voilà, malheureusement
on s'est un petit peu éloigné du thème initial.
Juste une question, un petit hors sujet, ouais. Un petit virage sur une question qui s'adresse surtout à Julo et Traz. À l'époque de la presse papier, genre fin années 80, des années 90 par exemple, on se souvient de nombreuses bouses, tu sais, des adaptations de films par exemple, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'ils envoyaient les jeux en avance quand même?
Si, à l'époque, il n'y avait pas ça.
Soit ils les envoyaient, et à ce moment-là, ils arrivaient effectivement en avance. Mais par contre, à l'époque, ils n'envoyaient pas.
Exactement.
Et ils les envoyaient pas.
En fait, il n'y a pas de jeu là qui est sorti il y a 3 jours.
Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait fait dans PlayStation Magazine une rubrique qui s'appelait Si mauvais qu'on ne l'a pas envoyé.
Oui, c'est vrai, ça, tout à la fin.
C'était basé sur une rubrique de première, je crois.
De première, je crois.
Qui s'appelait Si mauvais qu'on ne nous a pas invité à aller voir. Ouais.
Bah, tu vois, si mauvais qu'on nous l'a pas envoyé, là aujourd'hui, ne pas envoyer les jeux avant leur sortie, c'est un peu ça donne la même impression, tu vois. Ouais. Sauf que dans certains cas, les jeux ne sont pas mauvais.
Alors
que
c'est pas ça, voilà. Des fois, il y a des surprises.
Mais digression dans la digression aussi.
La digression.
Désolé.
Le Real Madrid est qualifié.
Hier, j'ai mangé des olives.
Le Real est qualifié contre la Juve. Voilà.
On part très très loin du sujet de base. Mais la qualité, enfin, je veux dire, la qualité moyenne des jeux, quand tu compares à cette époque-là, a tellement été
régressé.
C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait vraiment des jeux pourris. Aujourd'hui,
Superman, pour moi, c'est le jeu le plus pourri de tous les temps, quand même.
Non, mais il y a Paris Marseille Racing, il y en a d'autres.
Non, Superman, hein, il est.
Je te jure, il
vole au-dessus de ça. Tu parles de Superman 64.
Oui,
franchement, ce jeu, c'est un non-jeu.
Bah, moi, j'ai fait les deux, je peux te dire que Paris Marseille.
Paris Marseille, j'ai fait aussi, mais non, pour moi, Superman, c'est le pire de tous les temps.
Bon, bref, très long. À l'époque, il y avait des jeux pourris. Tu vois. Et aujourd'hui, la qualité moyenne des productions, quand même, est quand même vachement haute, quoi.
C'est très très rare, risque en même temps.
C'est très très rare, les grosses bouses comme ça.
Les
sommes engagées ne sont plus du tout les mêmes.
Bah, c'est pour ça qu'ils prennent plus de risques avec les indés aussi, comme Square, qui a le studio, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs.
Mais c'est presque un peu triste.
Le studio, c'était
un jeu pourri de temps.
La branche Koanis Collective qui pousse des studios indés en les envoyant sur Kickstarter.
C'est que c'est tellement rare.
En les mettant en lumière.
C'est tellement rare maintenant qu'on en vient presque à les apprécier, les rares cas où ça tombe. Tu sais, genre quand tu reçois un jeu, mais vraiment pourrave. Ça te fait presque rire, quoi.
Et bah, il y en a eu un, hein, il y a pas si longtemps que ça,
Rambo.
Et qui est devenu un peu culte par sa médiocrité.
Il y en a eu un autre juste avant, c'était Deadly Premonition.
Deadly Premonition, c'est génial.
Je suis désolé, avec toute l'affection que je peux avoir pour Swery, Deadly Premonition est une merde. Il a une ambiance géniale.
Tous les temps, je crois.
Là, c'est pas que l'ambiance, hein. Il y a des trucs de gameplay qui sont dingos.
Il a une ambiance géniale, mais à jouer, c'est franchement.
Mais tu as pas joué.
Si, j'ai essayé d'y jouer.
Non, mais t'as essayé.
Mais c'est une purge. Mais je sais plus.
Est-ce que t'as allé espionner dans les des villageois.
Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille espionner dans les maisons des villageois? Dès que t'as un combat, c'est une purge.
Non mais voilà, donc, c'est que voilà. Le début, tu t'es arrêté au couloir.
C'est que le début, si tout le jeu est comme ça.
Quand t'arrives au moment de l'enquête où tu deviens libre et tu peux aller où tu veux, il se passe des trucs de malade.
Non mais.
Ouais, je crois que vous
c'est tout. Je viens de croire, hein, maintenant que je sais que tu as financé le jeu de plateau.
Pas du tout.
Ah bon?
Mais c'est vrai que Rambo, c'est une vraie bouse à l'ancienne. C'était vraiment.
Oui, voilà, c'est ça. Un il fait penser aux jeux anciens. Ouais.
Un rappel des adaptations de films. C'est
merdique, des années de l'époque. Hein. 16-8, ouais.
Peut-être faudrait demander, je sais pas, une rubrique.
Faudrait demander à Johnny Wan.
Les bonnes vieilles bouses.
Ouais. Hein, Street Fighter ça, The Movie.
On appelle l'émission le BVB, Bonne Vieille Bouse. Et on ressort une bonne vieille bouse à chaque fois.
Ouais, c'est avec un mur jaune comme dans le stade du BVB.
Exactement.
Voilà, Buena Vista, un mur jaune de pisse d'ailleurs.
Ouais, jaune de pisse.
Et voilà, et ça pourrait être une bonne idée.
Commentaire sous le podcast. N'hésitez pas. Est-ce que Bonne Vieille Bouse ça vous intéresserait ou pas?
Ouais, ça serait pas mal.
Avec tous les jeux créés.
Avec un premier épisode Paris Marseille Racing, un deuxième épisode Superman.
Évidemment. Ou l'inverse. Troisième épisode Rambo.
Moi, je propose que ce soit Jean qui s'en occupe.
Ah, c'est pas con ça.
Ouais. C'est vrai qu'il est fort pour
casser les jeux.
Jean était très fort pour ça. Willow. Ah,
il est super fort.
Pour ceux qui s'en souviennent.
L'ami Willow qui
trouve toujours les bons termes et tout.
Bonne vieille bouse. Mmh. Allez.
Bon, on va essayer de préparer ça quand on aura du temps. On parlait de prêt, messieurs. Est-ce qu'on passe déjà au deuxième thème ou est-ce qu'on continue sur les licences pour qu'on a peur de plus revoir jamais ça de leur vie?
Tu fais comme tu veux, mec.
Uncharted,
c'est ton émission.
Uncharted, fallait pas que je le place.
Oui, Uncharted, on n'a pas à avoir peur pour Uncharted.
Tiens, tu le vois celui-là? Regarde. Hop.
Ok, voilà, si vous êtes premium, vous avez pu en profiter. C'était gratos, c'était violent.
Ouais, oui, j'ai peur, la France a peur!
Et c'est l'heure du deuxième thème. On va parler de prêt. Voilà,
c'est
j'ai fait le test de prêt.
T'es prêt à parler de prêt?
Ouais, je suis prêt à parler de prêt, mais je suis prêt à.
T'es prêt à parier que c'est un jeu.
Alors, t'as fait une grosse blague à tout le monde, tu l'as mis 9, t'as dit que c'était génial, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Alors, explique-nous.
Explique-nous pourquoi c'est de la daube.
Bah, non, mais tu.
C'est que t'as foiré Metacritic.
En fait, non, c'est vraiment génial.
Non, j'ai un peu honte, j'ai toujours pas joué à la démo. Il paraît que c'est.
La démo n'est pas représentative du jeu final, je préfère que tu le saches.
Bah, c'est la première heure de jeu environ, c'est ça?
Oui, mais elle a des bugs. Elle a des gros bugs de son, notamment. Ouais,
le jeu est pas fini, quoi.
Bah, c'était la démo en même temps, donc forcément, elle est pas finie.
Le jeu final est beaucoup
le
plus
jeu final est presque parfait, hein, dans la façon dont il veut embarquer le joueur. Alors moi, le truc que je vous disais déjà dans le podcast la semaine dernière, après y avoir joué 3-4 heures, c'est qu'en fait, c'est surtout un jeu qui vous trompe. Romain, comme moi, on a eu l'occasion d'y jouer auparavant, on avait fait quelques phases de jeu différentes, et l'impression qui s'en dégageait en ce qui me concerne, c'est que c'était un peu Dishonored 2, qui se passerait dans l'espace, et voilà, et arbre de compétences, tu deviens surpuissant, ok, il y a de l'infiltration, mais l'infiltration, c'est pour justement montrer que t'es encore plus surpuissant et surprendre tes ennemis, et bah pas du tout. C'est pas du tout un FPS, c'est pas du tout un action FPS, contrairement à ce que vous pouvez voir en vidéo et qui met beaucoup l'accent.
Il y a pas beaucoup d'action.
Qui met beaucoup l'accent sur l'action. À moins que vous soyez vraiment sûr de vous et que vous ayez des baloches gigantesques.
Il y a des baloches.
Faut même pas y penser.
C'est vrai.
C'est indécent même de penser après une heure et demie de jeu que vous allez pouvoir progresser tranquillement, le flingue à la main, et essayer de vous faire tous les ennemis, donc les typhons. C'est une race extraterrestre qui est faite de bestioles en nombre, à commencer donc par la catégorie des mimiques, qui sont les petites bestioles qui peuvent devenir des tasses, des chaises, et qui vous surprennent de temps en temps.
Rien
justement.
À voir avec Emmerich Lally.
Et non, rien à voir, parce que eux,
ils
peuvent
se transformer en collecteur. Il
est trop fort. Tu rentres chez lui, tu le vois pas, il y a que des collecteurs.
Hop, je suis une édition collector.
Les mimiques que vous pouvez voir à l'écran, qui sont ces espèces de petites araignées là, qui vous surprennent à chaque fois. Y a d'autres bestioles.
Un pistolet à faire disparaître les éditions collector.
Qui sont d'autres qui sont beaucoup plus grandes, et que ça commence par les mimiques, et qui sont déjà très très dures.
Mimiques, si tu me regardes.
À désinguer, ne serait-ce que parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un FPS, qu'on se rapproche plus d'un jeu de survie. Vous avez pas de facilité à les défoncer. C'est pas, il y a pas de, vous savez, de facilité pour viser quand vous avez la clé à griffe.
Tu veux dire, c'est à l'ancienne.
À la main, ça fait un petit peu penser à Zombie U, parce que c'est super dur pour essayer de frapper quelqu'un. Et donc voilà, en fait au bout d'une heure et demie, vous vous rendez compte que c'est plutôt un jeu de survie. Vous êtes plus dans Alien Isolation ou dans Dead Space, le premier. Hein, que dans BioShock et Half-Life, qui sont vraiment des influences en termes de narration et en termes d'esthétique, notamment BioShock. Hein, pour rappeler un petit
ça
peu
fait
le contexte,
très BioShock, hein.
Le contexte
pour
du
une
jeu,
station spatiale.
Vous êtes dans une station spatiale en 2032, mais dans un monde dans lequel Kennedy n'a pas été assassiné. Il a même fait prospérer les États-Unis, et la course, vous savez, la fameuse guerre des étoiles, en fait, elle a été accélérée. Et du coup, vous retrouvez dans une station spatiale tout en art déco, qui est magnifique d'ailleurs, hein, gigantesque, magnifique, avec des tas de compartiments dans lesquels il va falloir se balader pour justement trouver un moyen de s'échapper de cet endroit, dans la peau d'un mec qui a perdu la mémoire, et on sait pas trop pourquoi, et puis il y a des gens qui lui parlent, on sait pas trop à qui il faut faire confiance, exactement comme dans BioShock. Mais vraiment, pour le reste, le but, c'est vraiment d'avancer le plus discrètement possible pendant tout le jeu, parce qu'on...
Pour éviter les typhons, ils ont la méga classe.
Dès
d'ailleurs.
Qu'on rencontre un typhon, quelle que soit la forme du typhon, je le disais, que ce soit le plus petit mimique jusqu'au énorme cauchemar, et il y en a encore d'autres dont je peux pas vous parler, beaucoup plus près de la fin, qui sont gigantesques et qui vous mettent une droite, c'est fini. Et bah, il vaut mieux y aller tout doucement, en se planquant, en étant vraiment le plus paranoïaque possible. En servant au maximum de l'armement dont on dispose, pas forcément pour les défoncer, mais par exemple, on voit l'arbalète. Vous voyez, une arbalète qui tire des fléchettes en mousse. Vous vous dites, ça sert à rien, mais si, ça sert, parce que par exemple, vous faites diversion avec essayer d'attirer à l'oreille vos ennemis, mais aussi, il y a une porte avec un interrupteur dessus. Si vous allez vers la porte et qu'il y a un Strom qui est juste derrière, il vous désingue en une seconde, vous l'ouvrez à distance en appuyant sur l'interrupteur.
En silence.
Mais il y a tellement d'idées exploitées dans le jeu pour vous permettre justement de pas trop...
C'est un jeu qui récompense l'imagination.
Ouais, exactement. Et qui a un arbre de compétences qui est complètement fou, avec des choses qui rappellent beaucoup ce qu'on voit dans Deus Ex ou dans Dishonored.
Mais c'est justement, ça fait penser à Deus Ex quand même,
aussi.
Ce que tu racontes là.
Oui, System Shock aussi.
J'y ai joué beaucoup moins que toi. J'avais fait juste une preview qui était dans les deux premières heures du jeu. Et moi, c'était surtout BioShock qui en ressortait.
Ah, mais je comprends, mais BioShock était peut-être beaucoup moins oppressant en termes de jeu, tout bêtement. C'est-à-dire, quand tu rencontrais des ennemis, si t'avais tes bons plasmides et que t'avais un petit flingue bien chargé, tu te disais qu'il y avait pas trop de problèmes. Et puis, je me rappelle que aussi pour les comment
les Big Daddy.
Non, pas les Big Daddy, les fioles de vie dans BioShock, ça allait encore.
Il était peut-être un petit peu moins difficile, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens qu'il y avait des affrontements qui étaient pas forcément évidents.
C'était pas évident, mais c'était pas ça.
Pas à ce niveau-là. Ouais. La difficulté, je l'ai ressentie dès le début du jeu, et c'est vrai que t'en viens assez vite à éviter les confrontations.
Ah ben, c'est clairement. Ce que tu ne fais que ça. Alors, il y a des moments où tu vas être obligé d'y aller, hein, parce qu'il y a des petites quêtes annexes qui vont être proposées justement où il faudra nettoyer une zone et affronter les pires de tous. C'est des télépathes, des saloperies qui contrôlent les humains en face, et ça fait de la merde, et des tourelles aussi. Enfin bon, c'est affreux, mais heureusement, de temps en temps, on arrive à peu près à s'en sortir en faisant évoluer son personnage, notamment grâce à des armes et des pouvoirs qui sortent un petit peu du lot. Je vais commencer par le canon à glu, qu'on croit d'abord très inutile quand on commence le jeu, parce qu'on se dit peut figer un petit peu l'ennemi, etc. Alors qu'en fait, faut absolument mitrailler avec ce truc et figer complètement les ennemis pour ensuite aller peut-être leur donner quelques petits coups comme ça.
Leur poser une bombe dessus, comme on a vu tout à l'heure.
Ou alors utiliser la fameuse grenade de recyclage qui permet, alors c'est encore une idée géniale du jeu en fait, dans le jeu vous allez pouvoir recycler différents objets, différents éléments, des déchets, hein, pour pouvoir créer d'autres choses dans une machine à recycler. C'est très très bien vu. Et donc la grenade, en fait, elle aspire tout ce qu'il y a autour, y compris les ennemis, et elle ressort ces espèces d'apéricubes de organiques, minéraux, végétaux,
techniques,
pour que vous puissiez ensuite aller créer d'autres choses comme de nouvelles grenades, des munitions, des premiers soins, ce genre de choses. Bref, il y a beaucoup d'inventivité dans ce jeu. C'est surtout un level design vraiment qui est ultra bien foutu, parce que si vous n'avez pas fait évoluer votre personnage,
ça se passe dans les bureaux, en fait.
Vous pouvez toujours trouver des chemins pour aller où vous voulez. Et si vous avez débloquer certaines capacités en particulier, ça fait un peu comme dans un Metroid ou dans un Metroidvania, on va dire. Imaginons, vous voyez dans un endroit un canapé qui bouche une entrée. C'est un canapé, il est un peu lourd, vous pouvez pas trop le bouger, vous reviendrez plus tard avec la force montée, on va dire, au niveau 3, et hop, vous le dégagez, vous pouvez accéder à de nouvelles ressources ou à une nouvelle zone dans laquelle vous deviez aller, etc., etc. C'est très généreux vraiment dans la façon de vous laisser mettre en place les façons de progresser dans le jeu. Il y a des choix à faire qui vont être mis en avant à la fin, j'en dis pas trop non plus. Il y a plusieurs fins d'ailleurs, hein. Vous avez aussi des grosses décisions à prendre. C'est pas le jeu le plus impressionnant techniquement, n'est-ce pas Romain ? Visuellement, ça appuie surtout sur la direction artistique qui est vraiment très réussie, hein. L'ambiance sonore aussi est
folle.
Ultra oppressante. Je pense que le comparer à Alien Isolation et Dead Space, c'est pas mentir, parce que vraiment ça fait vraiment penser à ces jeux-là. Il y a des séquences dans l'espace qui sont très très bien faites. Vous pouvez sortir à tout moment, je crois, à partir d'un certain moment où vous avez récupéré un petit jetpack. Vous pouvez sortir dehors et faire le tour de toute la station et voir aussi qu'il y a des trucs qui traînent autour. Bref, moi j'ai pris une sacrée grosse tarte, d'ailleurs une tarte et puis une sacrée fessée aussi, hein, parce que j'avais les fesses bien rouges à la fin de ma partie à force de me faire humilier par le jeu. C'est extrêmement dur, même en facile. Poufy, qui évidemment n'est pas dans ce podcast et préfère nous regarder avec son air goguenard, peut confirmer. Il peut pas bouger la caméra, mais je pense qu'il le ferait pour dire que oui, lui aussi il en chie. Donc voilà, c'est un jeu que je conseille vraiment pas à tout le monde. Si vous imaginez que c'est un FPS, passez votre chemin. Si par contre vous voulez un jeu exigeant, gratifiant aussi, hein, si vous êtes vraiment du genre à aimer souffrir et à ne pas avoir peur justement de devoir appuyer sur le bouton sauvegarde rapide toutes les secondes, allez-y, vraiment. Si vous aimez les ambiances futuristes, ultra bien travaillé, allez-y. C'est un vrai bijou, vraiment. Ça fera partie des jeux de l'année, si je pense, c'était le cas pour Dishonored 2 l'année dernière.
De mémoire, d'après ce qu'on m'avait dit lorsque j'avais vu le jeu la première fois, et au niveau de l'histoire, donc Kennedy n'est pas mort.
Oui.
Enfin, mais il me semble.
Il est pas mort en 63.
Il est pas mort en 63.
Mais, il est mort en 2031.
D'accord.
Voilà. Si tu, mais, ça, tu veux savoir.
Il me semble que la station spatiale, elle est fruit de la collaboration entre les Américains et les Soviétiques.
C'est assez compliqué parce qu'il y a des moments où tu crois qu'en fait le bloc russe a été complètement anéanti. Il y a des petites histoires comme ça entre les Russes et les Américains qu'on découvre ensuite où ça s'est pas si bien passé que ça en fait. Donc voilà, le lore est très intéressant, mais il y a beaucoup de choses à lire.
Parce qu'ils expliquaient que les différentes ambiances dans la station spatiale sont liées à la construction progressive de la station spatiale.
Absolument.
En fait, il y a certaines qui ont une déco qui fait très années 60, d'autres, et d'autres plus avancées, etc. Parce que la construction de la station s'est faite au fil du temps. Quoi. Et donc,
exactement.
C'est pour ça que ça change.
Ces éléments de scénario, d'univers, etc. Ils te sont livrés comment? C'est comme dans BioShock, tu dois récupérer des notes ou
alors,
comme ça.
T'as des...
T'as des vraies cinématiques, des choses comme ça.
T'as des cassettes audio, enfin des cassettes audio, je pense à 13 Reasons Why du coup. Non, t'as des éléments audio qui vont te donner, des histoires de la station, tout bêtement, des personnes qui faisaient partie de l'équipage ou qui en font toujours partie.
C'est comme dans BioShock, tu peux lire ou pas lire.
Exactement. Et t'as sur les ordinateurs aussi, t'as des mails. T'as aussi un petit musée dans le grand hall qui permet de connaître justement l'histoire depuis 1963. De la conquête de l'espace, de tout ce qui s'est passé, notamment avec cette race extraterrestre. Il y a toujours quelque chose qui traîne, dans tout bon jeu narratif, j'ai envie de dire, pour justement te. Qu'est-ce que tu viens de dire, Trace, dans tes seufs, c'est ça?
Non, tu m'as dit, il y a toujours quelque chose qui traîne, j'ai fait comme tes seufs.
Oh là là, c'est pas possible. Donc il y a toujours quelque chose pour en apprendre un peu plus sur cet univers qui est vachement bien pensé et qui, à mon avis, mériterait une suite.
Mais j'espère, 10, en fait,
j'espère pas une suite à la Dead Space 3 pour pas que ça tombe dans le gros n'importe quoi,
dans l'action, tu veux dire.
Ouais, voilà.
Donc l'histoire, elle est intéressante sur la durée.
Ouais. Absolument.
Pas du tout.
Ouais, l'histoire globale est très intéressante. Le lore de ce reboot, parce que rappelons quand même que c'est un reboot de la licence près. Il y a eu un jeu en 2006.
Non, peut-être, ouais, je sais pas.
Peut-être
oui,
un peu
c'est
plus
ça,
tard.
Je crois que c'est 2006.
Ouais. 2006, oui, où on incarnait un Indien qui allait dans l'espace et Prey. Tout le principe de Prey, en fait, c'était de pouvoir avoir la tête à l'envers par moment dans un FPS. Bon, ils ont tout rebooté, Arkane, et ils ont très bien fait parce que ça s'en sort magnifiquement bien. C'est très, très inspiré, très bien conçu. Bref, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi d'autre.
Ce qui est amusant, c'est
qualificatif.
Tu sais qu'il y a eu cette histoire du joueur qui a utilisé le glue gun pour terminer le jeu en 20 minutes.
Maintenant, il est à 10 minutes.
Il est à 10 minutes. Ouais, les gens continuent à faire des speedruns.
C'est toujours lui, c'est toujours Dracul.
Ah oui, c'est toujours lui. Non, mais ce qui est amusant, c'est que lorsque j'ai vu le jeu chez Arkane directement et qu'ils nous ont présenté le glue gun, et ils nous parlaient du fait que oui, tu peux t'en servir comme escalier, etc.
Ouais, c'est vrai.
Et je me rappelle, j'avais parlé à plusieurs développeurs que j'avais vus là-bas et justement, je leur ai demandé si c'était. Le glue gun, c'était vraiment fait exprès afin de permettre aux joueurs d'aller le plus vite possible, de créer des issues là où il n'y en avait pas forcément. Et en fait, ils n'avaient pas été jusque-là dans leur démarche. En fait, c'était un outil clairement dans le jeu, mais c'était pas conçu. Enfin, ils l'ont pas conçu en se disant que ça allait permettre des speedruns et des trucs comme ça. Alors que moi, j'ai pensé à ça immédiatement. Parce que quand ils te montraient les mecs qui utilisaient l'escalier pour atteindre des zones que tu dois pas normalement atteindre.
Si t'as vu la vidéo des 20 minutes, tu sais que le mec, il passe par une zone qui n'existe pas en fait.
Ah ben oui, mais après tu sais quand tu donnes des outils aux joueurs,
c'est un gros glitch.
Voilà,
il a exploité un gros bug en balançant du glue gun sur une certaine porte, ça lui permet de passer au travers et du coup de se retrouver un peu plus loin.
Ouais, mais donc c'était sûr ça avec un outil pareil que des choses comme ça allaient être.
Ah mais faites. Après voilà, c'est un gros glitch qui à mon avis va être réparé dans pas très longtemps. Donc bah oui, mais le glue gun en même temps c'est un des trucs qui fait la force du jeu. Donc,
mais parce que ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, il y a une liberté qui est donnée aux joueurs qui est assez phénoménale parce qu'en plus avec les arbres de compétences.
Ah bah oui, tu peux choisir de crever comme si, comme ça, encore comme ça.
Non mais avec les arbres de compétences, t'en as plusieurs. T'as l'arbre de compétences, on va dire, humain.
Ouais.
Et t'as l'arbre de compétences lié au pouvoir, etc. Et c'est un peu comme dans BioShock pour le coup. Certains joueurs dans BioShock décidaient d'améliorer leurs armes, d'autres décidaient d'améliorer leurs plasmides.
Ouais.
Bah là c'est pareil, si tu veux plus utiliser tes pouvoirs, tu le pourras. Si t'es plus terre à terre et que t'as plus envie d'y jouer comme un FPS classique, même si c'est pas forcément recommandé,
pas fait pour.
Tu peux.
Oui, complètement.
Tu peux, ouais. Et c'est
absolument.
Comme tu peux choisir d'aller d'abord par là, de faire des quêtes annexes ou pas, etc. Enfin, il y a vraiment une grosse liberté dans le jeu.
Absolument. C'est dommage que sur PS4, en tout cas, il n'y ait pas la liberté d'avoir des chargements un peu moins longs quand on change de zone. D'ailleurs, c'est dommage qu'il y ait des chargements, tout bêtement, hein, dans ce jeu. Ça aurait pu être un open world, une station open world parfaite.
Bah, surtout que c'est présenté comme ça
seamless,
de base. Hein.
Bah ouais, mais c'est pas seamless du tout. En tout cas, sur PS4, dès que vous changez de zone, c'est une minute dans la tronche et puis c'est fini.
Ouais, quand même, une minute.
Ouais, sur PC, c'est beaucoup moins. Mais sur PS4
peut-être y avoir des patchs d'optimisation pour ce truc-là. Ouais,
mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas tout simplement fait un truc d'un seul tenant
du streaming
seamless. Là ça aurait été... là je crois qu'il aurait eu 10 hein.
Ah
mais
ouais
bon, ah ouais, bah, tellement ça casse vraiment le rythme du jeu. Ça fait partie des trucs les plus dommageables, je pense, pour Prey. Voilà, vous avez toutes les réponses que vous vouliez à vos questions. Ouais. Messieurs. Alors on va peut-être passer à la suite.
Allez,
allons-y, mon petit.
Eh bien, on passe à la suite, messieurs. On va passer au thème numéro 3. C'est un jeu de basket. Un jeu de basket fun et arcade ou pas arcade? NBA Playgrounds, Romain.
Bah, quand même arcade. arcade dans sa globalité. Ouais. Pas aussi arcade.
Non, pas du tout arcade. Les mecs font des sauts de 25 mètres de haut.
Pas aussi arcade que NBA Jam.
Arcade dans le feeling. Manette.
Oui, si, quand même.
Tu vois, parce qu'on va parler d'un détail en particulier après. Hein. Mais d'abord, présentation du jeu.
Ouais, parce qu'on nous annonce un jeu de basket en 2 contre 2 avec des dunks stratosphériques et des personnages avec des grosses têtes. Forcément, on pense à NBA Jam. C'est obligé de penser à ça quand on le voit.
Ah, grosses têtes, je pensais à Traz, mais ça, c'est une autre chose.
Elles sont moins grosses qu'avant, les têtes quand même. Hein,
mais après,
que dans NBA Jam, je veux dire.
Ouais, parce que NBA Jam, c'était un code. Là, c'est les têtes de base. Dans NBA Jam, il fallait faire un code pour
attends,
avoir les grosses
têtes. Après, on verra.
Mais donc, on pense à NBA Jam, mais quand on prend le jeu en main. Et ben en fait on se rend compte que c'est peut-être plus un hybride entre NBA Jam et NBA Street, et il y a une notion technique qui était pas là dans NBA Jam, tu vois. C'est moins pick up and play que l'était NBA Jam. NBA Jam, en 3 secondes et demie, tu savais comment jouer, t'arrivais à faire des matchs et faire des trucs spectaculaires. Là, t'as besoin d'un peu plus de pratique, t'as besoin de plus gérer les statistiques des joueurs, etc. Je vous invite à regarder le live qu'on a fait hier soir dessus. Bah, déjà, d'ailleurs, Poufi, pour les premiums, va passer des extraits. Oui, avant-hier, pardon.
Oui, ou même la semaine dernière. Hein,
ou
si
la semaine dernière,
premium, hein.
Peu importe quand vous regardez. Voilà.
Il y a 2 ans, si les gens regardent dans 2 ans,
ouais,
c'est
exactement. Ouais.
Si vous regardez ce podcast,
c'est pas ce qui peut se passer.
Ou alors, si vous êtes dans le futur et que vous venez de déterrer ce podcast d'une petite bouteille qui était enfermée dans, dans la première pierre d'un bâtiment raélien.
Il y a 2000 ans, donc.
Voilà, il y a 2000 ans. Et bien, sachez que.
C'était quelqu'un qui regarde ça dans 2000 ans.
C'était le 10 mai.
Avec Internet, tout est enregistré. Dans 2000 ans, ça va être facile pour les historiens.
Dans des millions,
les historiens du jeu vidéo viendront regarder ce qu'on disait de
l'humanité.
Salut
les extraterrestres,
salut les gens du futur.
Salut voilà, BX2810.
Si vous pouviez me ressusciter au passage, et pas de Traz par contre.
Ou alors ça se trouve, on sera pas mort.
Ça se trouve, on sera pas mort.
On sera des robots à moitié.
Non, nous si.
Donc, continuons sur NBA Playground.
Regardez là, je suis dans le.
Oui, alors.
Dans la matrice.
C'est un jeu qui met l'accent sur le timing. C'est vous pouvez pas juste lancer, appuyer sur le bouton de tir et faire votre tir et ça rentre ou ça rentre pas. Là, faut vraiment sauter, maintenir et lâcher au bon moment. Le truc,
c'était le cas dans NBA Jam, mais on va dire que le
c'est ultra permissif dans
le voilà, le moment où tu devais relâcher était assez large, quoi.
Puis assez clair en fait, c'est surtout ça.
Voilà,
là, c'est pas clair.
Là, il y a plusieurs choses. D'une, t'as aucun indicateur visuel qui te dit quand est le bon moment pour lâcher.
Par contre, il dit que c'est trop tôt ou trop tard. Hein,
voilà, c'est le seul truc, mais bon, c'est tellement vague.
C'est comme ça que tu peux t'ajuster aussi.
Ouais, mais l'autre truc, et ça je l'ai découvert plus tard en jouant, c'est que les statistiques de chaque joueur sont vraiment essentielles. Parce qu'hier, on faisait des parties et on n'arrivait pas à mettre de panier à 2 points, par exemple. Mais c'est parce qu'en fait, pour réussir à mettre un panier à 2 points, il faut que ton joueur ait des très bonnes stats en 2 points. Enfin, s'il a de bonnes stats en 2 points, le timing, ouais, voilà, c'est ça.
Mais alors,
le timing sera plus permissif.
On est mort de rire là.
Mais alors, du coup, comme au début, on n'a pas des joueurs extraordinaires, c'est pas, il y a pas que des joueurs légendaires super forts.
Si, il y a des bons. Bah, c'est des joueurs d'NBA quand même.
En fait, c'est un mélange de joueurs actuels et de joueurs légendaires aussi bien 80, 90 et même un petit peu avant dans certains cas. Ça remonte, je crois, jusqu'aux années 60 pour certains joueurs.
Ah oui, quand même.
Et sur les joueurs légendaires, il y a marqué épique, c'est ça ?
Il y a légende, épique.
Ah oui, épique,
il y a plusieurs catégories. Et en fait, quand vous allumez le jeu la première fois, vous avez 3 packs de cartes.
Mm-hmm.
Et dans chaque pack de cartes, il y a 5 cartes. Et chaque carte correspond à un joueur. Et donc, vous commencez avec ce capital de 15 joueurs. Et en en augmentant de niveau, c'est-à-dire en gagnant des matchs ou même en perdant, mais quand vous perdez évidemment vous gagnez moins d'XP, à chaque passage de niveau bah, vous débloquez un nouveau pack de cartes. Alors vous courez le risque de redébloquer un joueur que vous avez déjà. Mm-hmm. Dans ce cas-là, ça donne 100 points d'XP à ce joueur-là, parce que les joueurs eux aussi ont 3 niveaux d'expérience que vous pouvez faire évoluer en les utilisant et débloquer des joueurs au fur et à mesure. Il n'y a pas de microtransactions. Donc c'est juste en jouant que vous débloquez des packs de cartes, mais
et ça se débloque pas en trop longtemps d'ailleurs.
Bah, c'est ça le problème, c'est que débloquer débloquer tous les joueurs débloquer tous les joueurs nécessite de très très nombreuses parties parce que vous avez fréquemment
des paniers qu'on rate.
Fréquemment des doubles.
C'est super dur.
Depuis tout à l'heure personne n'a de panier.
C'est ce que j'ai fait clairement en arrière. Pardon, vas-y.
Et mais donc mais pour le coup, tu vois, hier j'ai fait une quand je jouais chez moi, j'ai fait une plusieurs parties avec Chris Mullin. Chris
Mullin qui était
sympa, chez toi
qui était au
c'est, vrai, ouais, c'est fou ça.
Ouais, on s'est bien marré. Il était au Golden State Warriors dans les années 90 et c'était une brute.
Et il se pointe chez toi comme ça le Valois tranquillement.
Il a su que je jouais à NBA Playgrounds, ça a sonné à minuit, je savais pas ce
genre après être allé voir Patrick Balkany, il vient de voir toi quoi.
Mais non, on a joué tous les trois en fait.
Ah d'accord.
Chris Mullin, Patrick Balkany et moi.
Ah OK, je comprends mieux maintenant.
Patrick Balkany, c'est un dunker mais de ouf.
Il a tout le monde. Quoi,
et lui, il fait des paniers à 50 000 points. c'est le seul. Et
tiens,
donc,
hop là, encore
donc ce bon Chris Mullin, qui était très fort à 3 points, et bah en fait, tu sens que lui, le timing pour les paniers à 3 points est un peu plus souple.
Et moins compliqué.
Ce qui fait que tu rates quand même, hein, mais t'arrives plus facilement à mettre des paniers à 3 points. Donc, ça, c'est malgré cette petite technicité, ce côté un peu précis, pointu.
Ouais.
Tu t'amuses quand même vachement avec ce jeu. Bah, vous voyez, on a joué hier, on rigolait. Et t'arrives à faire des.
Salut, c'est Johnny.
Et t'arrives à faire des beaux dunks, t'arrives à te marrer, tu bâches, tu pousses, etc.
Tu
donc, c'est marrant. Et l'avantage indéniable de jouer sur Switch, bah, c'est que tu peux l'emmener n'importe où avec toi et faire des parties multi sur le petit écran de portable, etc. Mais sur Switch, pour l'instant, il n'y a pas encore de multi en ligne. Ça va venir, hein, c'est prévu.
L'option est juste grisée.
Ouais, elle est grisée pour l'instant. Mais alors, et là, c'est un reproche qu'on peut faire au jeu. C'est l'exemple type du jeu qui sort pas fini, quoi. Parce que sur Switch, il sort sans le mode en ligne.
Ah oui.
Sur PS4, Xbox One et PC, il y a le mode en ligne, mais tu peux pas inviter tes amis. Donc tu joues que avec le matchmaking en fonction
et
du
vous
niveau.
Vous avez connu la NBA comme moi.
La NBA, ouais, t'allais dire ça.
La NBA dans les années 90 comme moi. Les visages qui sont utilisés dans le jeu, c'est ceux qu'on retrouvait sur les t-shirts. Vous vous souvenez que grosse mode, c'est que tous les joueurs de NBA à l'époque, ils étaient sur des t-shirts avec des têtes en mode
caricature.
Mais le pire, c'est que
c'est vraiment. Moi je vois pas tes wings et tout, c'était exactement la même tronche qu'ils avaient sur les t-shirts. Quoi.
Mais ce sont des caricatures, mais elles sont bien faites en fait. Les joueurs sont immédiatement reconnaissables.
Bah,
et le truc qui est chouette aussi, c'est qu'ils ont un peu le souci du détail. Par exemple, si vous allez dans les Knicks, parce qu'on parlait de Pate Wing, vous avez 5 ou 6 joueurs de différentes époques, mais chaque joueur a le maillot qui correspond à son époque, et le logo qui s'affiche derrière lui correspond à l'époque à laquelle il jouait. Vous voyez, on voyait les Warriors à gauche. Chris Mullin a le logo des années 90. Chris Webber a lui le début de fin 90, début 2000.
C'est des vrais fans de NBA.
Ouais, ils ont vraiment, et il y a une petite. Chaque joueur a une petite biographie, donc vous pouvez en apprendre plus.
Alors, il y a l'air d'avoir énormément de joueurs, ça doit prendre du temps à débloquer celui que tu veux.
Ouais, t'es un peu dans le zef, on en parlait il y a 5 minutes.
C'est très très long.
Je suis totalement dans le zef.
La petite frustration, c'est que justement, je trouve qu'on. On tombe souvent sur des doubles. Tu sais, c'est comme quand t'étais gamin. Enfin, moi, c'est ce que je faisais quand j'achetais des albums Panini ou des trucs comme ça. Et que t'achetais des lots de 5, 10, 15 paquets de cartes à la fois. Ouais. Et le nombre de doubles que t'avais, là, c'est un peu.
Tu les échangeais à la récré après.
Ouais, là, ça serait intéressant.
Et tu les volais.
C'est un peu chiant aussi, c'est qu'on tombe souvent sur des doubles. Pardon.
Bah oui, ça.
Non, mais.
Dans deux secondes, il va faire. Bon, on parle de prêt maintenant.
Non, mais c'est vrai, ce qui serait marrant, et c'est pas du tout prévu, mais un système d'échange en ligne de cartes.
Ça serait déjà en ligne.
Ouais, ça
sur
serait
Switch,
été cool.
En tout cas.
Mais oui, sur les autres versions, vous pouvez déjà jouer en ligne, mais c'est limité.
Ouais,
mais en tout cas, j'aimerais bien une petite. Et un autre défaut, c'est que l'IA, quand vous jouez contre l'IA, elle est surabusée dans certains matchs.
Il y a trois niveaux de difficulté.
Mais dans le mode tournoi. Tu peux pas régler la difficulté,
okay.
C'est imposé.
D'accord.
Donc des fois tu vas te retrouver dans un match où tu vas mettre 5-6 paniers de suite, tu vas prendre une petite avance, et à l'arrivée de la fin du match, et ben l'ordinateur va plus te laisser respirer.
Carapace bleue.
Mario Kart like, ouais.
C'est ça, c'est la difficulté.
Il a vraiment un bon fond, mais plein de petits défauts, ce jeu. En fait,
ouais,
c'est ça,
mais ce sont des trucs.
Ouais, mais putain, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de truc.
Bah voilà, c'est un genre qui manquait. C'est un genre qui manquait clairement, parce que pour moi, par exemple, NBA 2K, c'est beaucoup trop technique. Moi, je suis un ultra fan de NBA Jam depuis les années 90, mais NBA 2K c'est devenu trop technique pour moi, donc j'aime bien
ils sont revenus quand même
ce côté
un peu moins technique, justement.
J'aime bien ce côté, tu y joues immédiatement et tu comprends et tu t'amuses, etc. En plus, il y a des légendes, etc. Ça me parle, moi. Mais je sens que le jeu a été lancé peut-être un poil trop vite pour bénéficier justement d'un creux sur, par exemple sur Switch, parce que NBA 2K a déjà annoncé un NBA 2K sur Switch. Mais il n'est pas encore là. Donc là, c'est peut-être le premier jeu de sport professionnel qu'il y a sur Switch. Donc tu peux combler un vide rapidement comme ça. Mais je sens qu'avec un petit peu de travail de peaufinage a posteriori, ils peuvent vraiment arranger pas mal des soucis du truc. Par exemple, l'IA qui est abusée dans certains matchs, ça ils peuvent le peaufiner. Les indicateurs de timing pour les tirs, ça aussi ils peuvent l'arranger avec un patch. Tu vois, genre un petit flash lumineux qui t'indique quand lâcher ton tir au bon moment. Ça changerait beaucoup de choses.
Et mettre plus de playground aussi. Et là, il n'y a que 6.
Plus de terrain. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a rien en DLC. Ils n'ont annoncé aucun DLC là-dessus. Ils ont déjà dit qu'il y aurait des joueurs supplémentaires ensuite. On ne sait pas s'ils seront payants ou pas.
Ce qui sera déjà...
Mais genre, une petite retouche sur le gameplay, ça peut faire un changement considérable sur le jeu.
Et bah, il faudra voir si le jeu marche bien, de toute façon, commercialement.
Ouais, bah, je pense qu'il a un petit potentiel, surtout sur Switch, curieusement.
Ouais, moi, je vais l'acheter aussi, de toute façon.
Et parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le NBA Jam, qui était sorti sur PS3 et 360, il est rétro-compatible sur Xbox One, mais que aux États-Unis, parce que la version rétro-compatible, elle n'est jamais sortie chez nous, donc on l'a dans le baba. Évidemment, sur PS4, il n'y a pas de NBA Jam, donc il y a vraiment un marché sur ce jeu.
Tu dirais qu'il
arcade
est mieux ou moins bien que le fameux NBA Jam qui est ressorti sur Xbox 360?
Alors moi,
j'avais préféré
NBA Jam, parce que le feeling était vraiment plus proche d'un NBA Jam, tu vois. Tu prenais
très
la manette
arcade.
Et tu comprends, t'arrivais à jouer tout de suite. Là, t'as une petite touche technique qui est totalement absente dans NBA Jam et dont moi, pour l'instant, pas très bien réglé, dont je me serais passé. Mais j'ai bon espoir que ça sera retouché. Et il n'empêche
que... Et à ce moment-là, ça pourrait peut-être être mieux, justement, qu'NBA Jam.
Ah, ça pourrait peut-être être mieux, ouais. Mais pour l'instant, moi, malgré tout, je m'amuse énormément sur ce truc-là. Et maintenant que j'ai compris que les statistiques des joueurs étaient très importantes, j'en profite encore plus, on va dire.
D'accord. Donc sorti le 9 mai sur PS4, Xbox One, Switch,
PC.
PC aussi, au prix de...
De 20 euros.
20 euros, Maryse.
Voilà, faut aussi garder à l'esprit que c'est pas un jeu full price, c'est un jeu téléchargeable, ouais,
voilà.
Machin.
Voilà. Et donc c'est
ton
pas
test qui n'est pas encore écrit à l'heure où on écrit où on enregistre ce podcast. Ouais. Tu sais quelle note tu vas mettre?
Je vais lui mettre 7.
Voilà, 7.
Très bien, 7. Bon.
Bon.
Eh ben écoutez, c'est bon.
Voilà, 7, exactement. Je manquerai pas de le surveiller. Et
bah moi,
j'aimerais
8. Voilà, je t'en
et s'il y a des grosses modifications apportées par la suite, je vous en reparlerai. Voilà.
Très bien. Eh ben écoute, ce sera tout pour les trois thèmes de ce podcast. On va passer maintenant aux autres tests.
Il y avait effectivement d'autres tests, pas beaucoup, la semaine dernière.
Non,
il
y a eu un test à la bourre pour commencer.
Il y a eu un test grassement à la bourre, Outlast 2, voilà, ouais. Qui a légèrement déçu quand même, hein, parce qu'il y avait de grosses attentes autour de Outlast 2.
Ouais.
Le premier, un gros buzz lorsqu'il est sorti, on lui a pardonné beaucoup de défauts peut-être à l'époque, qu'on lui pardonne moins aujourd'hui. Dans tous les cas, Johnny Wan qui l'a testé et qui lui a mis 7 aussi, l'a trouvé effectivement très flippant, très travaillé au niveau de l'ambiance.
Très intense,
mais hyper linéaire et hyper porté sur le die and retry, quoi. Donc
un peu trop dur.
Et puis du coup, un peu trop dur. Et puis les solutions viennent d'une espèce de parcours à apprendre par cœur.
La progression par l'échec, en fait.
C'est ça, le die and retry, effectivement, c'est ça, la progression par l'échec.
Et ce qui est peut-être pas adapté pour un jeu comme ça.
Bah, disons que ça, voilà, ça casse un peu l'intérêt, le rythme et tout ça. Donc
le reason.
Il a vraiment de grandes qualités, à la fois esthétique, d'ambiance.
Il a l'air ultra malsain.
Hyper malsain, et puis ce qui est bien aussi, c'est que pour une suite, voilà, ils ont vraiment changé ils ont pas changé le principe, hein. On est toujours à travers cette caméra avec la vision de nuit pour
on peut toujours pas se défendre,
c'est hyper flippant, on peut pas se défendre, faut presque fermer les yeux à certains moments, etc. Donc ce principe là change pas, mais l'environnement lui change beaucoup, parce qu'on était dans un hôpital psychiatrique dans le premier épisode, dans un truc très clos, quoi, très fermé. Alors que là, on est dans des environnements voilà, ouverts, chez les bouseux ricains.
Chez les rednecks.
Qui, ça fait un peu penser d'ailleurs au début de Resident Evil 4, tu sais. Bon, là, c'était en
qui
Espagne.
Qui en Espagne.
Voilà, c'était en Espagne. Mais, et c'est le côté un peu, voilà, t'arrives dans un village un peu malsain, t'es à ciel ouvert, de nuit, etc.
Avec un gourou, encore une fois, ouais. Qui
donc, voilà. Légère déception pour un jeu qui reste un bon jeu, hein, un bon jeu. Il a eu 7. Voilà. On a testé aussi un petit jeu indé qui était attendu par ceux qui surveillent un peu la scène indé.
Thomas Rush.
Tout à fait, effectivement. Et ça s'appelle Pinstripe. C'est un jeu qui est signé par un seul et unique développeur.
Absolument.
Thomas Brush, qui avait fait déjà Coma et Skinny, mais ça c'est son premier jeu vendu. Donc il avait fait un Kickstarter, il avait levé quasiment 100 000 $, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un jeu qui est superbe esthétiquement, superbe au niveau sonore également, vraiment envoûtant, intéressant dans le sujet qu'il traite, etc. Mais qui est plus qu'imparfait dans toutes les mécaniques de jeu qu'il met en place, à savoir les petits puzzles, le gameplay plateforme, etc., qui est très mal réglé, et ça en devient vite très très chiant.
Oui, j'ai détonné sa note d'ailleurs.
Et ça gâche un peu.
Chiant au sens pénible ou au sens ennuyant?
Pénible, et puis pas très, pas très entraînant, quoi, parce que les séquences de gameplay sont complètement ratées, enfin les séquences de plateforme pardon, et puis les puzzles sans grand intérêt non plus. Bref, c'est un peu un gros potentiel un peu gâché, et au final ça donne un jeu moyen qui a donc 5/10.
Quelle tristesse.
Un père en enfer.
Eh oui, un père en enfer.
Mais comme
absolument.
Vous pouvez le voir, esthétiquement c'est vraiment très réussi.
Ouais, c'est toujours triste de mettre une note comme ça à un jeu, tu sais, qui a
qu'un mec a fait tout seul,
ouais, qui a
avec
tellement coûté au mec, tu vois.
Bah, si tu lis le test de Thomas, c'est vraiment tout le début, c'est assez dithyrambique, et hop, on trace un trait, et puis après, il dit tout ce qui va pas dans le jeu.
Bon, maintenant, je vais dire pourquoi faut pas.
Ah, mais c'est toujours triste.
Ça pète l'ambiance, comme on dit.
C'est toujours triste, tu vois, on est quand même dans une position où, putain, ça fait mal au cœur de dire, bon, bah voilà, je suis obligé de critiquer ce jeu. Et bon.
Il a combien de jeux? 20. Non, il a combien?
Ah, il est à combien? C'est une bonne question, ça.
15, 20, je sais pas.
Je ne sais plus.
Franchement, je sais plus.
Moi, je n'ai pas 15
euros.
Après,
si c'est 15 euros, tu vois, tu dis, ok, je vais quand même tenter l'aventure.
Mais si vous avez, quitte à mettre 20 balles, hein, vous pouvez jouer à What Remains of Edith Finch.
Ouais, voilà. Sinon, il y a un jeu français.
C'est ma nouvelle marotte.
Qui vient d'arriver en Early Access qui s'appelle Dead Cells. N'hésitez pas, il est en Early Access. Il n'est pas fini. Mais
les cellules mortes.
Voilà, les cellules mortes.
Je m'en fous, je dis des cellules mortes.
Pourquoi les cellules mortes?
Pour te faire chier.
Ah d'accord, ok.
Là, t'as compris.
Bah, t'as réussi à me faire chier, ouais. Il y a de
la
tension là, je le sens.
T'as compris.
C'est surtout que t'es fatigué, j'ai l'impression.
La tension sexuelle.
Ouais, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de tension sexuelle. Ça a coupé au couteau, même, j'ai envie de dire.
C'est vrai. Non mais t'as pas compris ma vanne.
Donc c'était les deux seuls tests supplémentaires de cette semaine.
Tout à fait, mon cher.
Voilà. Et donc on va passer à l'actu en vrac maintenant.
En quevra.
L'actu en vrac. Ça commence.
T'attendais le jingle là, c'est ça?
Ouais, j'attendais que Trace fasse le jingle en fait.
Il y a un petit jingle.
Mais c'est toi qui le fais d'ailleurs.
C'est Etienne Dao.
Ah non, c'est Etienne Dao qui le fait. Vas-y, fais-nous le jingle.
Salut, c'est Etienne Dao. On passe l'actu en vrac.
Ok, bon. Ça commence avec une nouvelle, une bonne nouvelle, avec Rime. Vous savez, au mois de mars, la date de sortie est tombée, avec aussi des prix sur les différentes plateformes. Et il y avait un petit souci, c'est que sur Switch,
Tequila Works était bien foutu de notre gueule.
Non, c'est pas Tequila Works.
Oh là là, quel
ce sont les co-éditeurs qui avaient fixé les prix donc de ce jeu de réflexion aventure magnifique auquel j'ai pu jouer il y a quelques semaines.
On dirait le héros des Cités d'Or.
Bah, c'est un mélange des Cités d'Or, de Ico.
On en avait parlé. Si tu avais vu sur Gameblog, nous en avons parlé dans une news bien spécifique.
C'est vrai.
Et ils ont peut-être été influencés, mais ils savent pas trop.
Ils savent pas trop, ils s'en souviennent plus.
Toujours est-il que donc les prix qui avaient été appliqués au départ, il y avait 10 euros supplémentaires pour la version Switch.
Ça,
sans qu'on
Nintendo,
on sache pourquoi.
Pas... Bah, si,
44,90€ au lieu des 34,90€ sur toutes les autres plateformes. Ça a fait beaucoup beaucoup parler, ça a fait beaucoup hurler.
Ça fait jaser.
Et bah ils ont décidé de réagir finalement chez Greybox. Ils ont décidé d'appliquer une réduction au final sur la version eShop,
numérique.
La version dématérialisée Switch de Rime. Donc il revient au prix des autres versions, mais par contre sur la version physique, ils expliquent qu'ils ne peuvent pas se permettre de baisser le prix, ils vendraient à perte sinon, mais ils vont offrir quelque chose de supplémentaire. un petit bonus aux possesseurs de la version physique Switch, ceux qui vont l'acheter sur Switch à 44,90€, ils vont leur offrir bah, la BO du jeu, tout bêtement un code pour télécharger la BO du jeu sur Bandcamp. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si bon, la pilule a quand même un peu du mal à passer, hein. Il y aura sûrement des gens qui auraient eu envie de l'acheter en physique sans avoir ça. Toujours est-il que voilà, au moins il y a une petite baisse de prix pour la version eShop. C'est un retour à la normale, on va
dire.
Parce
qu'en fait, il y a beaucoup de jeux multiplateformes qui sont vendus en boîte plus cher sur Switch. C'est lié au coût de production de
absolument,
de
puis au portage tout bêtement
de la cartouche.
En plus, c'est un autre studio qui se charge de cette version Switch, donc peut-être qu'ils ont aussi des sous à donner un peu au studio qui s'occupe du portage. Enfin...
Mais tu vois, Puyo Puyo Tetris, il est plus cher sur pareil, il est plus cher sur Switch. Là encore, à cause de la cartouche.
Ah ouais,
c'est bizarre parce que.
Mais c'est à cause du vernis pour la rendre dégueulasse, hein, ouais, la cartouche.
C'est ça,
je suis sûr
c'est
que c'est ça.
C'est ça qui a vu 10 euros. Parce que
ça doit valoir
je me rappelle du temps où les jeux sortaient sur 3DS, c'était des cartouches aussi. Bon, pas les mêmes types de cartouches, mais ça générait pas de frais supplémentaires.
C'est surtout les royalties de Nintendo. Hein, je crois que c'est
ouais, Nintendo
qui sont
beaucoup plus gourmands que les autres.
Comme toi d'ailleurs, t'es une goulue, toi.
Ouais, exactement.
Ouais. Julo,
non.
Deuxième actu en vrac de la semaine.
Je sais pas.
Ça concerne des rumeurs et les fuites.
Oh là là.
Les rumeurs, les spéculations.
Parce qu'on arrive à la.
Il y aurait des rumeurs et des fuites. Ouais, mais sur quel jeu?
On arrive à l'approche de l'E3, donc forcément, il y aura des rumeurs et des fuites, et forcément, on va commencer avec Ubisoft, hein, puisque Ubisoft c'est un peu les spécialistes. Dès qu'il s'agit d'ouvrir un robinet, il y a toujours quelqu'un chez Ubisoft pour ça. Et ça continue avec Far Cry 5.
Ah, on commence avec Far Cry 5.
Ouais, on commence avec Far Cry 5.
C'est western et en enfer aussi.
Oui, bah donc voilà, ou pas, effectivement, la dernière rumeur en date, ce serait que Far Cry 5 quand même, vous rendez compte, il est sorti quand le 3
Le 4 est sorti.
Non, mais même le 3, enfin je veux dire, c'était il y a pas si longtemps
ans.
Le 3.
Non, le 3 c'était
entre le 3 et le 4, c'est 2010
déjà. Non, je crois que c'est 2 ans chaque fois.
Le 2011 le 3.
Ah bon?
2010 ou 2011.
Ouais, c'est ça,
bon bref,
2011.
Tout ça pour dire qu'il y aurait un gros changement dans le. Parce que vous savez que Far Cry est passé par la préhistoire il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est vrai.
Avec Far Cry Primal. Voilà. Donc Far Cry 5, ce serait le Far West cette fois.
Ah bon.
Et ma foi, le Far West.
Ça serait pas mal comme idée.
Il n'y aurait pas un jeu à la fin de l'année là qui se passerait.
D'ailleurs, il y a eu une fuite aussi à propos de ce jeu.
Eh
bah
oui, effectivement. Tout à fait. On enchaîne là-dessus parce que je ne sais pas dans quel ordre Poufy elle est.
Il a l'ordre. Qui veut
le truc, c'est que Far Cry 5,
ce sont pas des rumeurs liées à des indices de tournage.
C'est du
Jean-François Guillot qui s'est rendu,
de la déduction, c'est de la déduction parce qu'il y a une publicité qui a été tournée récemment aux États-Unis dans une zone très western sur une réserve indienne. Et les personnes en charge de cette publicité, bah, ce sont des gens qui ont travaillé par le passé avec Ubisoft. Le staff de tournage, il y avait beaucoup de Français dans l'eau et tout. Donc quand tu remplis l'équation, bah ça te laisse croire qu'il s'agit bel et bien de Far Cry. Voilà.
Bon.
Voilà. Donc
ce serait pas mal. Mais...
Et comme on le disait à l'instant, il y a également une image de Red Dead Redemption 2 prétendument de Red Dead Redemption 2 qui aurait fuité. Alors je sais pas ce que vous en pensez.
C'est un fake à deux balles. Puis voilà, c'est tout.
J'y crois pas. Voilà,
moi,
je te le dis.
Je pense que c'est la version Switch.
Ah oui, d'accord. Ou la version PS3 alors.
Vraiment. Et parce que je suis ça depuis hier. Aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Les fans de Rockstar et tout se déchirent en ce moment. Non, mais c'est vrai, hein, les mecs ils se prennent la tête parce qu'il y a un camp qui dit que c'est vrai, qui donne ses arguments pour dire que c'est vrai. Il y en a d'autres qui disent que c'est faux. L'image, elle a été épluchée, passée dans des outils de retouche et tout pour voir s'il y avait des symboles et des indices, etc. Et il y a des éléments qui peuvent te faire croire que c'est faux, bah, autant que certains qui disent que c'est vrai.
La musculature du cheval, par exemple, me fait penser que c'est vrai. Parce que ça ressemble beaucoup aux chevaux qu'on voit dans le trailer qu'on a vu en octobre dernier.
Oui, c'est ça.
Mais le reste.
Il y a des gens qui ont fait des comparaisons avec les trailers image par image avec certains éléments. Et il y a bel et bien des choses qui rappellent Red Dead Redemption 2.
Au niveau du carrosse et tout ça, par exemple.
Mais après, tu vois, il y a l'ombre du mec. Il est adossé au poteau. Mais comment ça se fait que son ombre n'est pas collée au poteau? Enfin, tu vois,
c'est chelou.
C'est un peu. Il y a des trucs bizarres. Mais après, si c'est une version, tu sais, ancienne, ça peut être un truc qui n'est pas finalisé, tu vois.
Rockstar qui laisse passer des trucs, c'est quand même.
Ouais, Rockstar qui laisse passer, c'est très très difficile.
Je pense que le mec, il est mort. Hein,
ça arrive. C'est rare, mais ça arrive.
Moi, je pense qu'il est dans un lac écossais alors qu'il est. Et on n'entend plus parler de lui.
C'est un mec qui a créé ça, moi.
Mais voilà,
je pense que c'est Eve.
C'est un autre élément. Si c'est un fake. Le mec s'est quand même donné énormément de mal.
Il s'est fait chier.
Parce que bon, des fakes, on a déjà vu des fakes largement moins bien faits que celui-ci.
Oui, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Bah là, il s'est pris la tête.
Donc, il y a de quoi être. Il y a de quoi se poser des questions.
Voilà, exactement.
Tout est possible.
Bon, et donc, fuite est toujours fuite.
De toute façon, il arrive. Ouais,
toujours voilà. Pour revenir à Ubisoft, Assassin's Creed. Parce que Assassin's Creed, donc, Origins, on le sait, donc, il y a eu une année de pause par rapport aux sorties précédentes là, qui avaient lieu tous les ans.
Ouais, ça sent la révélation à l'E3. Hein.
Voilà. Et d'habitude, les Assassin's Creed sont révélés en mars. Mars-avril.
Voilà, ils fuitent en février.
Ils fuitent en février. Ils sont révélés en mars-avril avec un premier trailer, mais on voit pas de gameplay. Et ensuite, à l'E3, on voit du gameplay. Là, on voit que tout a changé dans la façon de dévoiler les Assassin's Creed. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est le fait de faire toutes les années exactement pareil, c'est un peu chiant. Et en l'occurrence, il y a d'abord des infos qu'on fuitait avant cette image qu'on est en train de voir.
Tiens, d'ailleurs.
Mais cette image confirmerait les infos. Alors, déjà, la première. Parce qu'il y avait quand même pas mal de débats entre l'Égypte, Rome, etc. Ça serait vraiment l'Égypte et le jeu ne serait pas sous-titré Empires, mais
Origins.
Et Origins, pourquoi ? Parce qu'en fait,
Il y aura Rayman dedans, en fait.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Non, c'est Michel Ancel qui a fait le jeu.
Voilà. On retournerait aux origines des assassins. Voilà,
mais là, c'est plus crédible parce que c'est une photo d'écran prise à la volée.
Mais les origines des assassins, c'est tout ce que c'est aux alentours de entre 800 et 1000, de toute façon.
Exactement.
Les Assassins.
Assassins, effectivement.
Assassins.
Tu vois, pour le coup, souvent, les photos prises à la volée, comme ça, c'est les moins.
Alors, ça confirme aussi quoi, cette image ? C'est que. Ah bon ? Ça va, on vous emmerde pas, les gars ?
Oui, c'est vrai.
Je trouve que la photo est fiable parce qu'elle est prise sur un écran, donc bon.
Alors que souvent, les photos prises de côté à l'arrache, comme ça, bon, là, les détails sont trop importants.
Oui, peut-être que le mec, il est en cachette, comme ça, tu sais, vite fait.
Non, mais de toute façon, il y a plein de sources qui ont confirmé que
c'est sûr,
vrai.
C'est sûr que c'est une vraie image, ça.
Et donc, cette image confirme également l'autre rumeur qui était celle des bateaux. D'ailleurs, a priori, il serait possible de quitter l'Égypte pour aller en Grèce. On avait beaucoup parlé de la Grèce aussi dans les premières rumeurs, parce qu'on parlait à l'époque d'ailleurs d'une trilogie entre la Grèce, l'Égypte et Rome, à l'époque de l'Antiquité.
D'accord,
donc.
Okay.
Pas tout. Il y a tout un tas de trucs. Apparemment, on va pouvoir à nouveau monter sur des chevaux. Il va y avoir un aigle ou un faucon plutôt d'ailleurs,
l'aigle royal,
qui aura un rôle dans le gameplay. Apparemment, on pourra voler avec lui. Ça, c'est des rumeurs un peu plus anciennes que ceux qui sont tombés là.
Bah, c'est l'histoire
dernière.
L'histoire de la vie. Bah, il se fume un peu de chichon et puis du coup il croit qu'il est dans l'aigle.
Il y aurait deux héros, un homme et une femme.
Donald
Trump et Poutine. Alors que les femmes étaient autrefois trop difficiles à animer, hein, on s'en souvient.
Bah, maintenant,
apparemment, on pourrait aussi aller dans plusieurs pays. Ça se passerait.
C'est ce que disait Julio quand tu parlais avec Traz.
La Grèce, que je disais.
Voilà, toi aussi t'es dans le Zef, donc
la Grèce antique.
Romain. Voilà, tout le monde est dans le Zef.
Mais le truc, quand même, le Cléopâtre
ou pas ? Parce que c'est ça la question.
Pardon ?
Est-ce qu'il y aurait Cléopâtre ou pas ?
Ah bah.
Bah, qu'est-ce que t'en sais, tu sais.
Bah, qu'est-ce qu'on en sait.
On n'a pas l'époque exacte. Donc
bah, si, c'est l'époque d'Égypte antique. Donc,
bah, oui, on sait pas si on va rencontrer Cléopâtre, mais
et
il
Marc Antoine,
ou César, ou François Mitterrand.
César, voilà.
Parce qu'il était égyptien aussi, comme Michael Jackson.
Tu m'as perdu, j'avais une autre idée. Le truc le plus intéressant, quand même, parce que c'est un peu pour ça que la série s'est reposée pendant un an, c'est qu'il y aurait quand même pas mal de changements dans le. Développement du jeu, quoi,
dans les
mécaniques, non, dans les mécaniques de jeu qui tournaient évidemment
dans l'enchaînement des flashbacks
qui tournaient en rond depuis tant d'années. Cette fois, on pourrait enfin avoir changé les choses et créer quelque chose de plus systémique, comme on a vu dans Zelda il n'y a pas longtemps. On sait que c'est dans la nouvelle.
T'avais pas remarqué que le mec il avait des flèches quand même, hein, alors des flèches en Égypte, moi je veux bien, mais bon,
pourquoi pas,
c'est chelou.
Pourquoi il n'y avait pas de flèches en Égypte?
Je sais pas.
Bah en fait, tu racontes n'importe quoi tout à l'heure. On est d'accord, Traz.
Ils avaient des lances.
Il a chaud, Traz.
Je pense qu'il est.
Il faut qu'on le mette dans un courant d'air.
Le week-end approche très vite là. Il faut absolument qu'on mette.
On est en train de perdre Traz.
Il faut qu'on le mette dans son caisson à oxygène là parce que c'est foutu.
Et les voiliers, ça n'existait pas à cette époque.
Les voiliers. Qu'est-ce que tu racontes, les voiliers? Mais t'es complètement défoncé, Traz.
Je crois qu'il a bu.
Mais t'es stone, sans déconner. Qu'est-ce que t'as picolé avant ce podcast?
Rien, c'était juste pour faire chier.
Donc, Julo, on va pas t'interrompre depuis
tout à l'heure. Julo, il est dégoûté. Il est du purée.
Bah, Julo, il boude du coup. Voilà, merci, hein, Traz. Qu'est-ce que t'as eu d'autre comme info?
Je sais plus où j'en
ai. Du coup, ferme ta gueule. Voilà. Non, mais je sais plus qu'est-ce qui restait à savoir.
Je crois qu'on a fait à peu près le tour des rumeurs en cours. Donc il y a fort à parier que le jeu soit dévoilé maintenant à l'E3.
Ou une semaine avant.
Je suis pas sûr.
Voilà, parce qu'en fait, la rumeur qui avait balancé que le jeu s'appellerait Origins, en fait, le mec se présentait comme travaillant pour une société qui produit les cartes. Tu sais que tu peux acheter chez GameStop, truc pour de réservation des jeux.
Ouais.
Et donc c'est lui qui avait fait le visuel de. Enfin, sa boîte qui avait fait le visuel pour la carte de, d'Assassin's Creed Origins. Et il expliquait qu'en principe, eux, ils envoient leur truc et niveau time, leur carte au magasin. Et un petit peu pour que ça arrive un peu avant le 3.
D'accord.
Et habituellement, ça laisse entendre que le jeu sera présenté un peu avant le 3. Il y a une autre rumeur qui est tombée au sujet de Origins hier qui disait justement que les dernières nouvelles disent que le jeu serait genre teasé, annoncé, mais tu sais, brièvement quelques semaines avant, enfin quelques jours avant le 3, et que le full reveal lui serait pour le 3. Donc
serait via un leak sur un site internet.
Ça peut pas être à l'époque de Cléopâtre.
Ah, mais j'ai teasé ça comme ça. Hein.
C'est impossible.
Pourquoi il a cogité depuis tout à l'heure.
Bah parce que c'est pas du tout à cette époque-là que les assassins ont été créés.
Mais les assassins ont été créés, on a dit la période tout à l'heure, hein, donc voilà, donc c'est mort.
Donc c'est mort, il n'y a pas de Cléopâtre.
Il n'y a pas de Cléopâtre. Enfin, après, peut-être qu'il y a une racine des assassins auparavant.
Ou un flashback.
Mais bon, c'est pas vraiment.
Ou alors ça se passe.
C'est pas la même période, c'est pas les mêmes endroits.
Ou alors ça se passe bien avant, parce que finalement, dans le premier Assassin's Creed, on est donc au 14e siècle.
On est au 12e siècle.
12e.
12e. 11e ou 12e siècle. Hein.
Je sais plus. Enfin bref, on est à une époque où la guilde des assassins existe déjà.
Ouais.
Les Assassins.
Ouais, absolument, ouais.
Là, on serait avant. Hein.
Ah bah là.
On serait aux origines, c'est pour ça que le jeu s'appellerait comme ça. Parce que.
Ah bah oui, là, on est avant, évidemment.
Quand tu commences Assassin's Creed, le premier, les assassins existent déjà, sont déjà organisés, ont déjà leur rite, leur rite initiatique.
Le premier Assassin's Creed, c'est vers l'an 1000 et un truc comme
ça. Ouais, c'est ça, c'est vers
1100. De toute façon, si tu fais un Assassin's Creed qui se passe en Égypte, tu remontes bien plus longtemps dans le passé.
C'est le même. Donc, c'est pas du tout mort.
Le problème, c'est qu'ils sont plutôt d'une autre région, en fait. Ils sont nés plutôt du côté de l'Iran,
on sait pas exactement.
De la Perse, quoi.
Mais, et un
donc,
autre,
bon, bref.
Un autre élément qui m'est revenu là, à l'instant, c'est que d'après les dernières rumeurs, il y aurait bien des séquences dans le présent, encore une fois, dans ce nouvel assassin.
Mais sans Desmond Miles.
Pas Desmond Miles, ouais.
Logique.
Ouh là 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 là.
C'est logique.
Bon, spoilez pas.
Ils pouvaient pas caser l'histoire après ce qui s'est passé. Non, c'est pas possible. C'était pas possible que ce soit Desmond. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir. Oui, on va probablement avoir des infos sur les autres sujets avant le sujet 16 et le sujet 17, quoi. Qui étaient Desmond et son prédécesseur.
Sujet 13 de Paul Cusset.
Non, ça va être intéressant. Ouais. Parce que là, vraiment,
on surveillera ça avec attention.
Évidemment, il y aura de l'histoire dans le présent. Ça me paraît évident qu'il le fasse. Et surtout. Ça va certainement lever des zones d'ombre qu'on attend de voir lever depuis très longtemps sur la première civilisation, quoi, sur ceux qui étaient là avant, comme ils appellent.
Exact.
J'espère vraiment qu'ils ont écouté les fans à ce niveau-là aussi et qu'il y aura une grosse part dédiée en fait au lever de voile sur des mystères sur la mythologie Assassin's Creed, quoi.
Très bien, on surveillera ça.
Allez, on
je suis comme un fou. Hein. Moi, c'est un des trucs que j'attends le plus à l'E3. Hein.
Bah tu auras toutes les infos une semaine avant le 3, donc t'inquiète pas, tout sera disponible sur NeoGAF. Donc actu en vrac suivante, c'est Electronic Arts, ils sont super heureux de la Switch visiblement.
Incroyable.
Ouais. Incroyable.
C'est fou,
non,
hein.
Mais ça a tout changé. C'est là, c'est les lois du business.
Bah oui, c'est ça.
Alors qu'ils étaient, ils étaient très méfiants, on va dire, un peu
très
prudents,
frileux, hein.
Un peu frileux avant la sortie de la Switch. Ils s'étaient contentés d'annoncer FIFA. Voilà, leur soutien pour la Switch, c'était un seul et unique jeu, c'était FIFA. Et là, maintenant, ils transforment ça en disant oui, on leur a confié notre plus grosse licence, on est super enthousiaste, on est en train de réfléchir aux autres licences qu'on peut sortir sur Switch. Donc là, les ventes initiales de la Switch ont fait changer son fusil d'épaule à Electronic Arts. C'est donc
étonnant.
Après, maintenant, reste à voir quelles seront les licences à apparaître sur Switch. Est-ce qu'ils vont faire comme à l'époque de la Wii et sortir des licences inédites qui exploitent vraiment les fonctionnalités de comme sport ?
Non.
Comme sport ou Bloom Blocks, le jeu de Steven Spielberg.
Ah oui, c'est vrai, Bloom Blocks.
Qui était sorti sur
Blocks.
C'était Bloom Blocks.
Ouais. Il y en a eu deux d'ailleurs.
Et oui. Et donc ça, c'était, tu vois, des expériences vraiment faites pour la Wii, ou alors des nouvelles versions de licences bien connues. Mais il me semble qu'ils veulent vraiment faire des trucs spécialement pour la Switch. Donc à voir ce que
peut-être
ça va
avec
être.
Le studio de Mass Effect. Qui sait.
On verra.
Ou avec Yo Interactive, peut-être qu'ils vont les racheter. Je sais pas. Autre nouvelle en vrac de cette semaine, c'est qu'après Bayonetta, eh bien, c'est au tour de Vanquish d'arriver sur Steam. Il arrivera le 25 mai prochain.
Vanquish,
autre jeu de Platinum Games édité par Sega qui a plusieurs années au compteur, hein. Mais ouais, qui
c'est
reste.
C'est quoi, c'est 2010 ça,
non, 2012. Ouais, attends, non, je crois attends, que
j'ai, peut-être même avant.
Je sais même plus.
Je crois que c'est 2010.
Ah, je sais plus, je me rappelle plus. 2002. Bref, gros jeu d'action spectaculaire comme Shinji Mikami, c'est les pensées.
Avec ses fameuses glissades sur les genoux.
Exactement, du gros n'importe quoi du début à la fin.
C'est vrai.
Un shooter révolutionnaire, nous dit la bande-annonce.
Ça a révolutionné
c'était
tout,
un peu ça, malheureusement, comme à peu près tous les jeux Platinum Games, il a fait un bide. Et là, il peut s'offrir une deuxième jeunesse sur Steam à partir du 25 mai. Si ça fait comme avec Bayonetta et que ça se vend à 100 000 exemplaires au bout de quelques jours, je pense que Sega sera très heureux. Et je crois d'ailleurs au passage qu'ils ont prévu encore de sortir d'autres jeux comme ça. C'est une bonne nouvelle, le jeu sera en super résolution avec un framerate de bâtard, ce genre de choses. Bref, si ça ne tenait qu'à moi et si j'y avais joué, je vous le conseillerais, mais j'y ai jamais joué. Donc voilà,
pour Sega, c'est quasiment que du bénéf là, ce genre de truc. Le travail effectué sur le jeu est quand même relativement limité en termes
de. Ah, mais ils le font bien, cela dit.
Mais oui,
ils
le font bien.
C'est
du truc.
C'est Platinum.
Ce que je veux dire, c'est que comme c'est que du démat, c'est. Enfin, ils font forcément plus d'argent, donc
le
tu vois, t'imagines Bayonetta 100 000 exemplaires en quelques jours, c'est, ouais, pour Sega, c'est une belle
Sega
opération.
Sega est en train de devenir un véritable éditeur PC, ouais. Ils recyclent des vieux trucs consoles, mais ils font surtout beaucoup de
RTS, des jeux de gestion, ils sont très très bien implantés à un niveau PC, et ça devient le.
Ils ont des sacrés développeurs avec eux et tout.
Ouais. Tous les meilleurs développeurs de RTS, de 4X, ils ont repris les développeurs de Endless Space, là, Amplitude, il n'y a pas très longtemps. Enfin, ils se font plaisir, ces gars, de ce côté-là.
Qui l'aurait cru
Qui
l'aurait cru il y a 20 ans ou il y a 15
ans 70 millions d'années.
Que Sega allait devenir ce qu'il est actuellement.
Si tu me remets dans mes souvenirs d'il y a 20 ans, je suis un peu triste quand même. Mais,
ouais.
mais je pense
dans
pas que
Sega, encore du tiroir.
Que Sega rachète des studios qui font des jeux de stratégie les uns derrière les autres, je t'avoue que c'est pas
si
le truc qui me réjouit
le plus. Tu feras pas l'enfant.
Dans tes rêves, ouais.
Non, j'aurais dit si ça avait financé Shenmue 3, d'accord, mais non, ça a même pas financé Shenmue 3.
Ça a peut-être financé Shenmue 1 et 2 HD déjà.
C'est
pour
vrai
commencer.
Ah, peut-être.
Peut-être, hein. Peut-être des nouvelles E3, qui sait.
Sega est devenu totalement pragmatique maintenant.
Oh, ça va, ça suffit maintenant.
Exactement. Et qui d'autre est pragmatique, mon cher Gelo?
Moi.
Non, Electronic Arts.
Ça m'arrive aussi.
Electronic Arts qui vont relancer Need for Speed dans pas très longtemps.
Ah oui, dis donc, quelle surprise.
Relancer, pourquoi ça s'est arrêté?
Ça s'est arrêté il y a 2 ans. 8 jours.
Bah, ça fait 2 ans qu'il
est sorti
maintenant.
Bah oui. Attends, ça passe vite.
Oh putain, c'était il y a 2 ans. Oh mec, tu m'as vu ma caisse, elle est trop cool. Ouais, viens, on va faire des compétitions de tuning de ouf.
Je sais plus, il y a un an en fait.
Non, 2 ans.
Non, c'était il y a un an, hein.
Tu le testais ici, donc ça fait moins de 3 ans.
Ça fait 1 an et demi. Voilà.
Ouais, c'était il y a un an et demi en novembre.
Parce que ça devait être en octobre.
Oh, le temps passe vite quand on s'éclate, mec.
Et ça fera 2 ans quand ça sortira.
Il paraît que t'es une terreur sur le bitume.
On est quand même en mai, donc ça fera 2 ans à la rentrée.
Ça fera 2 ans quand ça sortira, voilà, exactement.
Ça fera 2 ans cette année, quoi.
Ouais.
Quand il va sortir le prochain Need for Speed, ça fera 2 ans que celui-ci est sorti.
Exactement, voilà.
Cet épisode ridicule.
Ouais,
ridicule. Grand degré. Grotesque. Qui avait été assez mal accueilli pour pas mal de raisons.
Non, tu vas pas énumérer les raisons, on s'en fout.
Non, je vais pas énumérer les raisons. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a appris les premiers détails sur le prochain épisode qui sortira donc cette année, qui est à nouveau été confié au même studio, hein, Ghost Games.
Yo.
Et alors, parmi les nouveautés qui ont été annoncées par Ghost Games, alors d'abord
de nouveaux acteurs
incroyables,
de nouveaux doubleurs français.
Non, je pense qu'ils vont pas repartir là-dedans. Mais ça, ils l'ont pas dit, cela dit. On verra bien. Ce qui va rester, c'est les grosses envies de customisation au dernier degré. Et tu vas pouvoir
mec, il paraît que t'as des grosses envies de customisation.
Par contre, il y aura bien la police. Ça, c'est très bien.
Et mec, il paraît qu'il y a les flics derrière.
Ah ouais, non, mais Need for Speed sans les keufs.
Donc ça va
être
chassé,
c'est dommage. Les environnements seront plus variés. Vous vous souvenez que le précédent épisode était donc entièrement de nuit, entièrement en ville, etc.
Pour cacher la misère.
Le gameplay sera un peu plus systémique. Hein, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser ces temps-ci.
Systémique. T'as un nom de rappeur avec tu mets un K à la place.
Ça déchire le systémique.
Surtout, ils avaient été vachement critiqués sur un truc. C'était la connexion obligatoire en ligne.
Ça a duré.
Et ça, c'est fini.
Pour le mode solo. Et ça, ils ont annoncé. Je vous assure, vous pourrez jouer un solo sans avoir de connexion internet. Et ils ont dit, vous pourrez même mettre la pause. Donc ça c'est feature révolutionnaire qui sera certainement développé à l'E3
2017 en force.
Voilà.
Et donc j'imagine la quote sur la jaquette entre guillemets. Ouais. On peut mettre la pause.
Donc le jeu sera dévoilé évidemment lors de l'E3 ou juste avant, cela dit d'ailleurs, parce que ça sera à l'EA Play, donc à la conférence d'Electronic Arts, et il sortira donc en fin d'année. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant, mais voilà.
Et Julo, comme on sera tous les deux à Los Angeles et que on va aller au EA Play
et qu'on va faire l'amour
et que Need for Speed
sera dans jacuzzi.
Need for Speed, c'est certainement toi qui va le faire. Faut que tu fasses ton plateau en parlant comme dans le dernier jeu.
Hey les mecs, salut, je vous annonce.
Alors, vous avez vu ma caisse?
Et c'est quoi avec la voix de Tiendao?
Salut les mecs. Vous avez vu ma caisse?
Salut. Et tu commenceras par le salut de Johnny One. Super mix de l'enfer.
Il est super ton pot d'échappement.
Autre actu en vrac.
Ouais,
le pot d'échappement de Traz.
8ème jeu de Blizzard à atteindre le milliard de dollars de recettes. Voilà, sur 2016. Super, c'est génial. C'est la teuf.
Bah dis donc, c'est un bon résumé de la situation.
Exactement, le jeu il est pas sorti il y a un an et que déjà bah, ça a cartonné. Ça fait quand même 80% du chiffre d'affaires de Blizzard quand même.
Faut le dire. Ouais.
Ce jeu-là. Donc, 30
millions de
joueurs. 30 millions de joueurs, exactement.
Voilà.
Et d'ailleurs, il ressort en version, je sais plus quoi.
Il va sortir en édition Game of the Year. Ah, en tout cas, c'est la rumeur du moment. Ça a été spoté sur le marketplace de Xbox.
Xbox, exactement.
Ce qui prouve que sur là, il continue à.
Ouais.
Et donc, Jean-Claude Van Damme.
De quoi, pardon?
Il continue à pousser le truc vraiment très très
fort. Ah, bah, en même temps,
il pousse les boundaries.
Il pousse les.
Il n'arrête pas de cartonner, tout le monde y vient. Et même, ça se trouve, on va s'y mettre à midi. On fera
tout à l'heure.
Et on fait un Overwatch, et puis voilà.
Bien sûr, on va tout à l'heure et on va cartonner.
Mais c'est vrai que c'est un peu un bug, il n'y a aucun de nous qui joue à Overwatch.
Un bug, même.
Mais il y a Eve.
Non, on joue à Puyo Puyo Tetris.
Eve, elle joue pas à Overwatch.
Si, elle joue à Overwatch. Mais bien sûr que si.
Ah, d'accord, je pensais qu'elle jouait qu'à LoL.
Ah, non, non, elle joue aussi à Overwatch.
Exactement.
Et c'est pour ça qu'on l'a embauché, c'est pour qu'elle joue à Overwatch.
Bien sûr.
Et qu'elle joue à l'autre de la journée.
Nous, on fait de l'e-sport sur Puyo Puyo Tetris.
Exactement.
C'est le next level.
On a que ça à faire. Voilà, c'était la news de
cette. L'autre news en vrac, c'est une qui me fait un peu.
Ah oui, ça me fait kiffer grave.
Qui me fait non, ça me rend un peu triste.
C'est
au contraire. Parce que je viens à peine de découvrir Persona 5, que j'adore, que j'aime vraiment.
T'as pas le temps d'y jouer.
D'amour fou, que j'apprends. Voilà,
que
cette semaine qu'on apprend que, Katsura Ashino, qui est l'homme fort de la licence depuis Persona 3, c'est lui qui réalise, qui produit, qui a créé un peu cet univers complètement barré depuis le troisième épisode.
Et je pense qu'il a créé sa chemise aussi.
Et ouais, est, elle, elle est géniale, sa chemise. Trois niveaux de poids différents.
50 Shades of Poids. et donc qui a aussi, qui est aussi à l'origine de Catherine, qui est un de mes jeux. Je pense préféré de tous les temps.
C'est vrai.
Eh bien, Katsura Ashino était parti fonder le Studio Zero chez Atlus en décembre et il a, dans un message de remerciement sur le PlayStation Blog adressé aux fans de Persona 5, il a dit bah voilà, je vais passer le jeu à mes successeurs, signifiant bien clairement et définitivement
démerdez-vous
qu'il ne sera pas sur les prochaines éditions de Persona, malheureusement. Donc on lui souhaite bon vent.
Voilà, exactement.
À Katsura Ashino,
bah, tu crois qu'il est parti
dont vous
prince,
pouvez retrouver une interview réalisée par Rudy juste avant la sortie
de
Persona 5.
5
interview très intéressante évidemment réalisée par Rudy. Quelqu'un peut m'imiter Rudy ici ou pas? Non, personne.
Bonsoir.
Ne peut.
Non,
personne ne peut y arriver parce que personne.
Salut
ne peut avoir la voix.
Oui, je pense que vous êtes
assez grave pour ça.
Chéri.
Donc
ciao. Pas grave, moi regarde, je
Ashino-san.
Ashino-san, salut, tu nous manqueras tous.
Autre actu en vrac, l'avant-dernière.
Oui, c'était quoi déjà?
Ça concerne Wonder
Boy.
Ah oui,
Wonder Boy, il aura une version physique de la mort.
Ouais.
Parce qu'il est sorti qu'en version dématérialisée.
Exactement.
Maintenant.
C'était un truc
au grand dam des collectionneurs comme Plume.
Dont ils nous avaient parlé pendant le live qu'on avait
exactement
fait avec Omar Cornut et Ben Fiquet. Ouais.
Et Ben Fiquet aussi.
Qui, pff, n'importe quoi. qui nous avait dit bah non, on n'y pense pas, malheureusement.
Mais en fait,
on voudrait bien
menti
et tout. Bah non, mais
ils ont menti.
Ils en savaient rien et surtout ils ont eu une pression de ouf.
Non, je
moi, je me rappelle qu'ils me le disaient encore en dehors. Ils disaient putain, mais il y a de plus en plus de gens. Franchement, ça fait chier de pouvoir répondre. Et bah voilà, il y en aura une par Limited Road Games qui a fait des super éditions collector très limitées pour d'autres jeux.
C'est eux qui font Night Trap.
C'est eux qui font Night Trap. C'est eux qui éditent Night Trap.
La version
ah,
boîte.
C'est qui édite, oui, d'accord.
Ah bah voilà, bah eux c'est des spécialistes de
du
des
trapage
versions boîte.
Ah, ils mettent en boîte des trucs download only quoi.
Bah, des trucs de niche en fait, des jeux qui se vendront pas énormément, donc c'est pour ça qu'ils s'appellent Limited Run en fait. Ce sont des tirages à assez peu d'exemplaires en fait. Si le jeu vous intéresse,
valoir cher dans plusieurs.
Voilà,
c'est
exactement ça. Si les jeux vous intéressent, faut frapper tout de suite.
C'est un pari sur l'avenir, ma parole.
Et est-ce que Plumeau, t'as peut-être
non, ça, là, qu'est-ce qu'il fait Trace sans déconner.
Là, tu peux jouer en 8 bits hein, si
oh,
tu veux.
Oh la vache.
Et Plumeau, t'as peut-être la réponse à cette question parce que le press kit de Wonder Boy qu'on
je
avait reçu,
la
il reprenait la boîte. Tu sais, il s'inspirait d'une boîte Master System.
Absolument.
Est-ce que tu sais si la jaquette de la version boîte
PS4.
De Wonder PS4 elle reprendra un peu ce design-là?
Non, je pense
ou
pas du
tout. Si, le fond.
Le fond, ils ont fait
le fond
quadrillé.
Ah oui, non mais le fond. Mais je crois qu'ils ont pas le droit d'utiliser en fait.
Ah bon, c'est déposé ce truc-là.
C'est sûr, c'est déposé par moi.
Vous avez eu un best-of de trash.
Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, il est vraiment en méga forme.
J'ai envie de dormir là, vous comprenez pas?
Ok, bah t'iras dormir juste après.
T'avais remarqué qu'il y avait un petit extraterrestre en bas à gauche ?
La dernière. Oui, oui, j'ai vu, c'est un ninja en fait.
D'accord.
La dernière actu en vrac de la semaine.
Avec un chapeau à droite.
Romain.
Oui.
C'est enfin, on a des détails sur le 3 de Nintendo.
Ah oui !
Et oui, Traz !
Attends, tout à l'heure t'as dit que tu te rappelais de tout. Et bah je serais curieux de voir ça.
Oui, je me rappelle de tout.
Ou pas. J'ai fait tout oublier là.
Il nous a tous fait bugger.
Non, en fait, donc Nintendo, on sait qu'il n'y aura pas de conférence cette année, mais il n'y aura pas de Nintendo Direct non plus.
Oh,
ils ont changé l'appellation, l'appellation de la chose. En fait, ils vont faire une émission en streaming le mardi. C'est le 13 mardi 13 juin, 13 juin. À 18h heure française.
Bien.
Au cours duquel
de la chance.
Il y aura tous les jeux. Ils vont présenter tous les jeux Switch qui sortent avant la fin de l'année, dont Super Mario Odyssey. C'est le seul qui est mentionné explicitement.
Auquel nous, on va pouvoir jouer.
Oui, ah bon, c'est vrai.
Exactement.
Bande de bâtards.
Et donc, ce stream sera consacré à la Switch. Ensuite, il y aura des Treehouse pendant toute la durée du salon. Donc, les Treehouse sont des streams, des émissions en direct qui sont organisées depuis le stand de Nintendo à l'E3, au cours desquelles il y a des séquences de gameplay commentées de différents jeux. Ils jouent en direct en fait et ils parlent des jeux.
Avec les créateurs en général.
Il y aura Miyamoto qui dira.
Il y a des gens de Nintendo, il y a des créateurs qui viennent, ça parle pas mal. Mais c'est un moyen aussi d'en voir plus sur les jeux à venir sur les consoles Nintendo. Là, pour le coup, les Treehouse, ce sera au sujet de la Switch, mais aussi au sujet de jeux 3DS.
Ouais. D'accord.
Et en plus de ça, alors là, ça c'est plus vraiment pour les fans e-sport des jeux Nintendo, il va y avoir deux tournois.
Ah ouais ?
Un sur Splatoon 2.
Ouais.
Et là, en fait, ça sera les finales liées à des qualifications qui ont été faites au préalable. Donc, il y aura des équipes de différents pays qui se rendront à Los Angeles pour participer à la finale de ce tournoi.
Ouais.
Et le lendemain, il y aura un tournoi de ARMS. Et donc là, pour le coup, je pense que les candidats à ce tournoi seront des gens sélectionnés sur place directement.
Bah, ARMS, Julo, c'est comme c'est ta cam, tu devrais peut-être t'inscrire, non ?
Bien sûr.
Comme t'es super fort.
Moi, j'aurais que ça à foutre en plus.
Ouais, c'est ça, on aura le temps de
Au lieu d'aller dans votre jacuzzi, vous pourrez faire un tournoi ARMS. Hein,
on pourra jouer à ARMS dans le jacuzzi.
Et donc, pour ce qui est du stand en lui-même, on sait pour l'instant que ARMS et Splatoon 2 seront évidemment jouables, mais aussi Super Mario Odyssey.
Ça, c'est bien ça.
Donc, j'imagine que dans le.
C'est hors de question à l'E3 que tu me dises ah ouais, mais. ARMS et Splatoon, tu connais mieux que moi, je vais faire Mario.
Je connais pas du tout Splatoon.
Non, parce que sinon je te dirais ah ouais, mais attends, moi je suis à l'aise avec Nintendo, pas trop avec le reste, tu vas faire le reste et moi je vais faire Nintendo.
Nintendo.
Ok.
Bah je fais Shenmue.
Ah, je suis pas venu pour faire le 3.
Non,
ah,
voilà, si tu fais.
Trop tard.
Ouais, c'est trop tard, bande de cons.
Oh là là, ça y est, ça commence déjà.
De toute façon, vous allez sur le 3 pour souffrir. Hein. Donc,
Non, ça va, on fait un partage équitable comme ça. Tu sais, comme on fait quand
toi,
on
les jeux PC, lui, les jeux console. Ouais, non, voilà, c'est parfait.
J'ai connu ça. Hein.
Dans la cour de récré.
Total War, Romain. Oh, c'est pour toi, ça.
Dans la cour de récré, on fait comme ça, tu sais. On constitue deux équipes pour faire le match de foot.
Ouais,
il y a un capitaine qui choisit un joueur, puis l'autre capitaine, un joueur. Tu choisirais un jeu, puis toi, un jeu, puis toi, un jeu.
Comme dans Koh-Lanta.
Je pense qu'il y a suffisamment de temps pour qu'on puisse au moins essayer rapidement Mario tous les deux.
Ouais, on va.
Mario.
Vous prenez chacun un Joy-Con et puis voilà, vous vous amusez avec.
Il y en a qui contrôlent les bras et l'autre qui contrôle les jambes.
Oui,
de Mario.
Voilà, amusez-vous. Franchement, prenez pas la tête, les mecs.
Mais bon, en plus de ça, je pense que pendant le stream où ils vont annoncer des nouveaux jeux, je pense que certains d'entre eux seront également sur le stand de Nintendo. Donc on aura, je pense, plus que 3 jeux à voir sur le salon.
Ouais, surtout nous à Paris, on y jouera aussi. T'inquiète.
Bah, tu sais, Nintendo souvent font des événements genre quelques semaines après le 3 où les gens peuvent essayer la presse peut essayer les jeux montrés pendant le 3.
Donc, ça risque d'arriver là,
c'est pas impossible.
Absolument.
Mais bon, tu vois, Splatoon par exemple, il sort quoi, la semaine de l'E3, je crois, le vendredi de la semaine de l'E3 ou la semaine d'après.
Je sais plus, c'est en juin, mais je sais plus.
C'est juste après, je crois. Ouais.
Non, donc, attends, ils sortent en juillet, Splatoon.
Oui, ils sortent en juillet, il me semble.
C'est le 28, c'est plutôt en fin juillet. C'est ARMS qui sort le 16 juin pour ARMS, je crois. Je suis pas sûr en fait.
Donc voilà.
Bon, bah voilà, c'est tout pour l'actu. L'actu en vrac, c'est tout pour ce podcast.
L'actualité.
Tout court. Avec un Traz intenable, survolté.
Ne lui laissez pas la conclusion.
Quand on est à son troisième ou quatrième doigt de
voilà, au niveau des doigts, je pense qu'on devrait mettre un Traz dans Mario Kart parce qu'avec les bras d'honneur des Inklings, il s'entendrait très bien.
T'imagines si on était contacté par une grande chaîne de télévision qui souhaitait diffuser le podcast à l'heure de grande écoute, on serait obligé de biper. De biper, flouter Traz toutes les 5 minutes.
Ce serait impossible.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah d'accord, si tu le dis.
Je le dis. Je le dis et je le fais. D'ailleurs, je fais ce que je dis. Je dis ce que je fais et je fais ce que je veux.
Ouais, ah bah absolument. Okay, pas de souci.
Bon, merci.
Bah voilà, c'était bien.
Ouais, merci Traz. Salut Traz, merci Romain,
salut, salut.
Merci Julo,
salut.
Merci Poufi, merci à vous,
merci
encore une
Dao.
Fois de nous avoir.
Merci Etienne Dao. Merci Johnny One.
Merci Johnny One, salut.
Salut.
Salut. Salut. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de
exact.
La rédaction. Peut-être sans Traz et sans donc cette ambiance de merde qui plombe totalement ce podcast.
C'est fort possible.
D'ici là.
Sans Etienne Dao aussi.
Sans Etienne Dao, sans Johnny One.
Salut.
On se retrouve la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien et
surtout.
Surtout
faites dodo.
Salut.
Laissez les commentaires en dessous surtout.
Jouez bien.
Ciao.
Lâchez les commentaires.
Salut. Salut.